Ouais, c'est trop, je trouve.
Mais c'est dommage que je l'ai pas enregistré quand elle m'a dit. C'est dommage, hein.
Monsieur, je m'en ai arrêté. Est-ce qu'elle aime bien
j'ai trop la vue qui est.
Alors, ouais, d'accord.
Vous m'avez dit tout à l'heure, je pense que ce soit les questions.
Ouais, d'accord, ouais. Très bien.
Moi, là, ils sont en train de me faire un cake parce qu'en cet après-midi, ils voient ma haute
vision. Ils veulent
à tout prix que je puisse leur présenter des documents sur le principe de la c'est ça, j'ai remis les gens qui les protagonistes de la table. Et il n'y a pas les gens ici de entendre les solutions. On ne va pas essayer de formaliser d'une manière définitive.
Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Ah, très content de vous accueillir au nom du maire de Paris ce matin pour une réunion de concertation que nous avons pu organiser depuis déjà quelques semaines et que nous avons initiée le plus largement possible. D'ailleurs, pas mal de personnes qui n'avaient pas été bénéficiaires de premier temps ont envie de venir et j'ai naturellement accepté d'en respecter au nombre de chefs. Donc, moi je voudrais d'abord vous remercier d'être là, chacune et chacun, puisque vous prenez sur votre temps de travail, votre temps personnel, pour participer à la conservation, pour la nourrir, pour l'alimenter, et donc je voulais vous remercier déjà pour cela. Vous dire d'autre part, avant que nous commencions à débattre sur le fond, qu'une conservation, par définition, c'est un moment où l'on discute, c'est-à-dire que des propositions sont soumises à une discussion, et cette discussion doit rester ouverte, et qu'aucune décision définitive n'est prise à l'heure actuelle, bien entendu, puisque nous sommes dans une concertation. Donc, je voulais aussi dire les choses précises dès maintenant, que dans ce que nous proposons, qui est une actualisation du règlement des étalages et des terrasses de la ville de Paris, qui est un texte vieux de 20 ans, c'est simplement une actualisation, c'est une refonte, et que rien dans les propositions ne n'est de nature à justifier un ton quelquefois passionnel, et que, pour nous, il s'agit juste de faire les choses avec le plus de, comment dire, de consensus possible, et qu'il s'agit franchement de partager l'espace public. L'espace public ne peut être partagé que dans un vrai, dans un vrai consensus. Rappelons d'abord qu'à Paris, qui est une ville capitale, la première destination touristique au monde, est une ville relativement petite, puisqu'elle comprend 105 km² dont les trois, que sur cet espace, nous avons 11 millions de mètres carrés de trottoirs, et que si on peut tirer d'ailleurs déjà un bilan de ce que nous avons fait depuis 2001, la dimension des trottoirs a augmenté de 7%, soit 70 hectares de trottoirs supplémentaires depuis 2001, qui correspond à la superficie du grand parc de la Villette, qui n'est pas rien. Sur ces trottoirs se rencontrent différentes activités, vous le savez, des activités privées, des activités plus officielles, des activités commerciales, des activités gratuites. Pour ceux qui nous concernent, c'est-à-dire les activités commerciales, rappelons qu'à Paris, on a plus de 80 000 commerces, 100 commerçants et artisans. 18% de ces commerces ou artisanats ont un étalage ou une terrasse. Et d'après les comptes que fait la ville de Paris, 40% des cafés, restaurants ou alimentations ont une terrasse. À Paris. Nous comptons à Paris à peu près 9000 terrasses. Il s'agit naturellement d'un mode de vie qui est typiquement parisien, pas seulement parisien, naturellement, mais européen. Il se trouve que moi je reviens d'Asie et au Japon par exemple, les villes n'ont pas de terrasse, ça n'existe pas. C'est un mode de vie qui ici est très caractéristique de notre mode de vie, c'est-à-dire aller dehors, avoir des lieux de convivialité dehors, ce qui n'est pas le cas évidemment de toutes les civilisations. Voilà ce que je voulais vous dire d'entrée de jeu. Nous sommes nombreux, et nous ne sommes pas tous, donc je vais, avant que les services de la direction de l'urbanisme me commandent, nous présenter ce projet, la projection qui est prévue, vous demander de vous présenter. Je vais d'abord vous les présenter, les services de la direction de l'urbanisme, et dire confondre des fonctionnaires avec des politiques, que les fonctionnaires qui sont là pour nous aider à travailler, et que c'est naturellement nous les politiques qui sommes responsables de la façon dont les choses se font. Les fonctionnaires ne sont là que pour traduire ce que nous leur avons demandé de faire, et je vois extrêmement mal le fait de désigner tel ou tel fonctionnaire à la vindicte de je ne sais qui, une vindicte d'ailleurs qui n'a pas de sens, Et donc, je voulais remercier devant vous les fonctionnaires de leur travail, de leur dévouement et du temps qu'ils prennent souvent sur leur vie personnelle pour aller dans les réunions de concertation, hors des heures de travail, pour vous présenter le travail que nous leur demandons de faire. Donc, je voulais le dire de manière très calme. En tout cas, je considère que ceux qui désigneraient tel ou tel fonctionnaire par leur nom ne comprendraient rien à la concertation. Et donc, s'excluent eux-mêmes, finalement, de procédures qui sont des procédures, qui font d'abord appel à la confiance. Parce que quand on discute avec quelqu'un, c'est qu'on fait confiance à l'autre. Voilà ce que je voulais dire d'entrée de jeu. Donc, mon cabinet, Eric Osmond, Domitsy Trinovic et Shira Sofer sont auprès de moi. Et mademoiselle Morin, si vous voulez commencer par vous présenter, ensuite nous demanderons à chacun de dire très rapidement son nom, son prénom et qui le représente.
Mademoiselle Morin, adjointe ou sous-directeur du permis de construire et du paysage de la rue.
Hélène Marchand-Audinet, en charge des questions paysage de la rue à la sous-direction du permis de construire et du paysage de la rue.
Denis Caillier, sous-directeur du permis de construire, la direction d'urbanisme.
Donc, c'est pour ceux-là, bonjour, pareil, que je vous remercie, merci.
David Zenouda, président de l'association des commerçants et riverains de la rue Tictane.
Patrick Molot, président du CACP, comité des associations de commerçants de Paris.
Florian Poisson, restaurateur et président de l'association des commerçants des Hauts du 8e.
Elisabeth Bourguina, secrétaire de l'association Accomplir, qui est une association d'habitants de premier et deuxième arrondissement et qui est membre du réseau Vivre Paris.
Philippe Jacquineau, président de Quartier Latin Passionnément, association membre du réseau Vivre Paris.
Rémi Calmont, directeur du SNAE, syndicat national de l'entreprise.
Pierre Aubry, le chef du pôle licence et débit de boissons à la direction des transports et de la protection du public. Pierre Ouvry, chef du pôle licence et débit de boissons au sein de la direction des transports et de la protection du public, la préfecture de police.
Avec qui nous travaillons de manière régulière, que je remercie d'être présent avec nombreux représentants.
Gisèle Lalu, chef du bureau des actions contre les nuisances, notamment sonores, à la préfecture de police.
Marie Molly, préfecture de police, adjointe sous-directeur des déplacements et de l'espace public.
Florence Moumaro, chef du bureau de la réglementation de l'espace public à la préfecture de police.
Sylvie Barnaud, commandant de police à l'état-major de la police de proximité.
Annelise Burgère, secrétaire générale de la ville de Paris.
Franck Drouet, directeur général du SINORCA. Didier Chenet, président du SINORCA, qui est le syndicat national des hôteliers et restaurateurs, qui est le traiteur. Jean-Pierre Chauvel, président des restaurateurs au SINORCA.
Stéphanie Leblanc, juriste du SMRTC.
Pardon ?
Je suis juriste du SMRTC.
Qui est ?
C'est un syndicat de restaurateurs.
D'accord. Hervé Guijol, du spécialisant du SINORTC.
Thierry Campion, président des cafés brasseries à l'UPI, qui est un syndicat départemental de l'Ontario.
Christian Navet, président du PIH, donc le patronat de l'industrie hôtelière.
Gérard Bollet, président du syndicat des buralistes.
Gérard Bondureau, président de l'association Les Droits des Non-Fumeurs.
Olivier Lenoble, directeur du développement économique de la société de l'artisanat de Paris.
Isabelle Quetreau, chambre de métier de l'artisanat de Paris.
Michel Sidam, Institut d'Orient, j'ai une activité de recherche et d'édition face à Montresca. Et je suis membre également des Droits du Piéton, de Descartes Mouffetard et du Quartier Latin.
C'est bon.
Gérard Simonet, président de Vivre le Marais et membre du réseau Vivre Paris.
Germain Malte, vice-président des droits du piéton, membre du réseau Vivre Paris.
Dominique Martin, présidente de l'association Vivre Secrétant dans le 19e, association qui est donc qui représente les habitants et les amis du quartier Secrétant, association qui est membre du réseau Vivre Paris.
Bonjour à tous, Éric Deschâteauvieux, je suis chargé de communication à l'association Handirail. Handirail s'occupe des déplacements des voyageurs en situation de handicap dans nos cités, jusque dans les gares, dans les trains.
J'ai oublié de préciser que j'étais membre du réseau Vivre à Paris.
Jacques Tardieu, élu à la Chambre de commerce et industrie de Paris.
Philippe
Solignac, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, en charge du commerce.
Et Delphine Tablin, donc collaboratrice à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris.
Merci donc à chacune et à chacun de vous d'être là. Alors, Madame Marjolinet va nous présenter dans un petit moment comment vous appelez ça, un PowerPoint qui va faire le point de où nous en sommes dans la concertation et lancer d'ailleurs la concertation. Je voulais dire quelques mots avant pour que les choses soient claires entre nous. Donc, il s'agit d'actualiser un règlement vieux de 20 ans pour faire en sorte d'y introduire ce que nous avons voulu faire pour la ville, en particulier la place que nous voulons donner aux personnes en situation de handicap, au pluriel, tous les handicaps, ainsi que les évolutions de la législation qui sont venues se rajouter en 2006 et 2007, en particulier l'interdiction de fumer dans les cafés et les restaurants, qui donc ont fait en sorte que les fumeurs sortent sur l'espace public. Alors évidemment, il ne s'agit en aucun cas, comme l'ont écrit certains journalistes, les journaux s'effacent les uns après les autres, d'élargir les terrasses à Paris. Non, il s'agit de faire en sorte d'introduire dans notre règlement les nouveautés qui ont été imposées, non seulement parce que nous voulons y faire, c'est-à-dire rendre la ville plus douce aux handicapés, et aussi prendre en compte les évolutions législatives. Les personnes handicapées. Merci. Situation d'handicapage, je dis. Donc, naturellement, les terrasses à Paris font entièrement partie du paysage de la rue, du visage de Paris, du plaisir aussi des usagers, que nous sommes tous à un moment de notre vie, il faut le reconnaître. Et donc, aujourd'hui, tel que nous l'avons présenté, le document est un document de travail qui sort de base à une discussion. On y avance un certain nombre de propositions, ce qui est notre travail, bien sûr, de faire des propositions. Ces propositions sont reçues par les uns, bien par d'autres, moins bien sans doute, mais à titre personnel, je dois dire qu'il y a des propositions qui sont avancées, qui sont encore pour nous des sujets de réflexion et de doute, et naturellement nous écoutons tous les interlocuteurs que nous rencontrons, c'est pour ça d'ailleurs que nous voulons les rencontrer. Alors, voilà, je suis moi ouverte à la discussion, je suis ouverte à écouter ce que vont dire les uns comme les autres, mais je dois dire que je prends très à cœur mon travail, plutôt ma fonction d'élu, qui est de faire en sorte de créer des lieux de rencontre, évidemment. Nous sommes tous sur le même territoire et nous devons tous partager cet espace public. Donc nous devons tous accepter aussi que l'autre soit là. Et l'autre, c'est souvent soi-même, de temps en temps, puisque nous sommes à tour de rôle, piétons, automobilistes, cyclistes, piétons, et sans doute aussi amateurs de terrasses de café ou dérangés par des terrasses de café. Donc, soyons clairs que la ville est difficile à faire et que nous devons tous y mettre un peu de nous. Voilà. Chose importante que je veux dire avant même que nous commencions à discuter. Quels que soient les termes de la réglementation qui sera applicable le 1er janvier 2011, elle n'aura de chance d'être respectée que si elle peut y avoir de véritables sanctions contre les contrevenants. Et tant en matière d'amende qu'en matière de démontage effectif d'installations non autorisées. D'où la demande de réforme législative que nous avons depuis longtemps et qui donnerait au maire, dans les faits, des pouvoirs en la matière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous le savez, et je veux que les choses soient claires, puisque nous sommes entre personnes responsables ici, vous êtes tous représentants de quelqu'un, de quelqu'un, il faut que les choses soient claires. Nous avons, nous, la mairie, un pouvoir de réglementation. Mais nous n'avons pas un pouvoir de sanction que dans le cadre de la loi. Or, la loi nous impose aujourd'hui des sanctions de 35 euros, quelle que soit la ville dans laquelle les sanctions ont lieu. À Paris aujourd'hui, les sanctions de 35 euros ne représenteront en rien une sanction d'issue. Plusieurs fois législateur. Et nous avons été jusqu'à mardi dernier voter un vœu au Conseil de Paris qui demande aux législateurs de donner aux maires le droit d'établir des sanctions. Je regrette que certains n'aient pas jugé utile de voter ce vœu. En tout cas, ce vœu a été voté par une majorité du Conseil de Paris. D'ailleurs, je vais vous le faire distribuer que vous l'ayez en main. Pour savoir que vous avez aussi des rôles à jouer auprès des législateurs. Et je vous demande, puisque vous êtes ici en personne responsable sur ces problèmes, de jouer ce rôle auprès des législateurs. Pourquoi ne pas avoir des pétitions auprès des législateurs pour qu'on change cette législation? Vous avez tous des rapports avec eux. naturellement vos députés, vos sénateurs, vous les connaissez, eh bien, agissez auprès d'eux comme nous le faisons, puisque moi je viens d'écrire, et le maire de Paris a ici aussi écrit à l'ensemble des représentants de la ville de Paris qui partent au Parlement, afin que cette législation puisse changer. Et je pense que nous ne serons pas les seuls, puisque dans d'autres villes, évidemment, les problèmes sont les mêmes. Donc il faut là-dessus que les choses changent. Autrement, nous, appliquant une réglementation, nous n'avons pas véritablement de pouvoir, et je sais que du côté des représentants des professionnels, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on a besoin de pouvoir sanctionner ceux qui n'acceptent pas ou ne respectent pas la réglementation, afin que l'ensemble de la profession ne soit pas gêné par certains contrevenants. Donc je sais que c'est partagé par les professionnels aussi. Voilà. Donc ce que je veux dire par là en finissant, c'est que pas plus aujourd'hui que demain, rien ne sera possible si tout le monde ne s'y met pas. Donc nous avons donné dans ce projet des réels pouvoirs aux maires d'arrondissement. D'abord en matière de concertation. Vous avez sans doute été invités chacun, les uns et les autres, dans votre mairie d'arrondissement pour la concertation. Mais les mairies d'arrondissement vont avoir aussi, si ce règlement est accepté, des pouvoirs aussi d'avoir des chartes locales qui puissent permettre dans certains quartiers spécifiques qui ont eu un caractère historique avoir des chartes locales qui permettent de gérer un peu différemment, qui rentrent dans le règlement qui sont pour gérer un peu différemment les choses et donc affiner un peu les choses. Ces chartes locales, nous proposons de les faire rentrer dans le règlement pour leur donner force de règlement. Donc tout cela donnera au maire d'arrondissement qui a le nez quand même sur son arrondissement et sur la façon dont vit cet arrondissement, des pouvoirs en matière de concertation, en matière de réglementation que nous devons accepter bien sûr. Donc les associations locales de riverains, les associations locales de commerçants, les associations locales de quartier évidemment, seront concernées aussi. Donc l'hôtel de ville a naturellement son rôle à jouer, ses responsabilités, la préfecture de police bien entendu les siennes, mais tout le monde doit avoir des responsabilités là-dedans, les représentants des riverains, les représentants des commerçants, naturellement les maires d'arrondissement, et naturellement, et je veux répéter, le Parlement qui a voté la loi pour mettre les fumeurs sur l'espace public sans nous donner véritablement les pouvoirs de gérer cet afflux de personnes qui viennent sur l'espace public. Parce que, soyons clairs, hein, à Paris, nous avons vu le nombre de demandes de terrasses exploser au moment où cette loi est arrivée. Donc, comment faire en sorte de gérer cet afflux de personnes sur la voie publique sans pouvoir, je veux le répéter, il nous faut absolument avancer dans ce cadre et je compte aussi sur votre mobilisation là-dessus. Voilà, donc ce que je voulais dire d'entrée de jeu, je crois que le mieux c'est qu'on regarde ensemble le PowerPoint et puis ensuite les vacances.
Ça va, là, on voit bien.
On y
arrive.
Donc, je vais vous présenter en quelques diapositives le projet de révision du règlement des étalages terrasses. Dans un premier temps, il s'agira de replacer le contexte dans lequel intervient cette révision. Donc le contexte de l'occupation de l'espace public, d'abord un principe à rappeler, en tout état de cause, c'est que l'occupation de l'espace public est interdite. L'espace public est avant tout le bien de tous, il est inaliénable et incessible, et son utilisation à un autre usage constitue une dérogation. L'occupation du domaine public par des terrasses ou des étalages, qui nous amène aujourd'hui à en discuter, est soumise donc à autorisation après instruction, instruction au cours de laquelle le maire d'arrondissement est systématiquement consulté. Donc l'occupation peut être accordée, mais ne constitue pas un droit. C'est ce qu'on a parfois du mal à faire comprendre à certains. Même si le règlement le permet de l'autoriser, l'autorisation qui en découle n'est pas forcément systématique.
Les autorisations délivrées prennent la forme juridique de permis de stationnement qui sont délivrés donc par le maire de Paris dans le cadre de ses pouvoirs de police. Elles sont annuelles, précaires et révocables. Alors, les permis de stationnement, comment ça fonctionne? Donc, la gestion du domaine public relatif aux étalages et terrasses s'articule à Paris autour de quatre leviers qui sont à la disposition de la ville. D'abord, le règlement des étalages et terrasses dont on parle ici, les chartes locales qu'on se propose d'introduire, la délibération tarifaire, et enfin le contrôle, les sanctions et le marquage au sol des installations. En ce qui concerne le règlement des étalages et terrasses, donc, il fixe les limites de ce qui est autorisable sur l'ensemble du territoire parisien. Il est édicté après concertation avec les élus, professionnels et associations concernées et constitue un cadre des dispositifs autorisables mais ne confère, encore une fois, en aucun cas un droit d'occupation pour les commerçants. Les chartes locales, quelques précisions à leur sujet, elles constituent des documents qui seront coproduits entre le maire de Paris, les maires d'arrondissement, les associations locales et les professionnels. Elles s'inscrivent donc complètement dans le cadre du règlement général. Elles peuvent par exemple limiter l'emprise dédiée aux étalages et terrasses sur les trottoirs, ou encore définir les limites d'occupation, ou encore les horaires d'ouverture des terrasses, ou interdire des dispositifs dans certaines voies. La grille tarifaire, quant à elle, est de la compétence du Conseil de Paris, alors que le règlement des étalages et terrasses constitue un arrêté du maire. Donc la grille tarifaire fixe la liste exhaustive des dispositifs taxables sur le domaine public municipal. Elle précise les tarifs par catégorie de voie, par nature d'objet et selon son positionnement sur le trottoir, s'il est situé dans le tiers du trottoir ou hors du tiers. La grille tarifaire peut être utilisée pour encourager ou dissuader certains dispositifs, par exemple les chauffages, on en parlera tout à l'heure. Enfin, quatrième levier, il est composé des contrôles et des sanctions. Donc, à la ville de Paris, 1500 avertissements et près de 2000 PV ont été dressés en 2009 à l'égard des commerçants contrevenants. Donc, ce sont les inspecteurs du paysage de la rue de la direction d'urbanisme qui interviennent en journée et en support les inspecteurs de la direction de la prévention et de la protection qui interviennent le soir et le week-end. S'y ajoutent les contrôles réalisés par la préfecture de police. En matière de visibilité des occupations, la ville a entrepris depuis plusieurs années le marquage au sol de certains secteurs ou tronçons de voie pour mieux visualiser les emprises autorisées. Et ces opérations de marquage sont appelées à se développer en concertation avec le mairie d'arrondissement pour faciliter avant tout le contrôle des installations. Dans le même objectif, l'affichage des autorisations sera complété par un plan qui matérialisera l'emprise. Enfin, comme l'évoquait Mme Cohen-Solal, le besoin se fait sentir de disposer de moyens complémentaires pour le bon respect des autorisations octroyées. Donc la ville souhaite pouvoir disposer d'un mécanisme d'astreinte administrative, un peu sur le modèle de ce qui existe dans le code de l'environnement pour les enseignes et la publicité. Et pour ce faire, une modification législative est nécessaire. Voilà, donc là on va passer à la seconde partie qui rentre un peu plus dans le détail de ce que propose le projet de nouveau règlement d'étalage et terrasse. Donc en propos liminaire, pourquoi réviser le règlement? Donc il s'agit d'assurer un partage harmonieux de l'espace public entre ces différents usagers et soumettre à autorisation préalable du maire toute occupation du domaine public. Donc on peut distinguer essentiellement trois thématiques d'évolution, celle en matière d'esthétique et de développement durable, celle qui concerne la nature des dispositifs et enfin les emprises autorisables. Alors en matière d'esthétique et de développement durable, les exigences en matière de qualité seront accrues dans la nouvelle réglementation, notamment sur les mobiliers d'étalage, une vigilance accrue sur l'esthétique des supports, sur leur positionnement sur le trottoir, ainsi que sur la présentation des marchandises exposées. Et un cahier de recommandations sera annexé au règlement pour préciser justement ces aspects esthétiques. Voilà, donc là, typiquement, ce sur quoi la vigilance sera accrue, c'est-à-dire
ce
qu'on ne peut pas voir. Là encore, il s'agit de ce qu'on ne veut pas voir, parce que c'est anarchique.
Ce qu'on
ne
veut plus voir. Voilà.
Alors, en matière de développement durable, les modes de chauffage au gaz seront contrôlés. Donc, il est proposé que les chauffages au gaz soient désormais interdits. Et les commerces qui en sont d'ores et déjà équipés disposeraient d'un délai de 2 ans pour se mettre en conformité avec le nouveau règlement. Donc, les chauffages qui ont fleuri depuis quelques années sur les terrasses parisiennes, soit approchés ou Second grande thématique d'évolution en fait, concerne les dispositifs autorisables. En premier lieu, les contrats d'étalage permanents. Donc, dans la réglementation actuelle du 27 juin 1990, le règlement prévoyait que les contrats d'étalage ne pouvaient être autorisés qu'à titre temporaire et à l'occasion de certaines fêtes qui étaient énumérées dans le règlement. Aujourd'hui, de la même façon, seules 4 voies bénéficient de la possibilité d'accueillir des contrats d'étalage annuels. Il est donc proposé la possibilité d'autoriser à l'année ces dispositifs qui jouent pour certains secteurs d'activité un rôle essentiel de maintien du commerce. Voilà, donc là on est dans un cadre de contre-étalage permanent à l'occasion des fêtes de Noël. Second grand type d'évolution, elle concerne les terrasses fermées en zone piétonne. La réglementation de 1990 les interdisait en zone piétonne. Il est proposé qu'elles soient désormais admises en fonction de la configuration des lieux et des cheminements des piétons, dans la mesure où elles réduisent considérablement les nuisances sonores et sont plus esthétiques que les terrasses ouvertes fâchées. Donc là, la terrasse bâchée, qu'on a vu également fleurir depuis quelques années, et qui est particulièrement esthétique. L'autre dispositif qui pourrait évoluer concerne les contre-terrasses surchaussées. Donc, c'est une innovation qui est apparue depuis quelques années, d'abord en province. Donc, de tels dispositifs pourraient être autorisés au cas par cas, après un examen particulièrement vigilant en accord avec la préfecture de police sur la sécurité des personnes qui seraient accueillies sur cette terrasse. Une terrasse expérimentale. Par ailleurs, la faculté d'autoriser une terrasse à d'autres activités qu'à celle de la restauration du lieu des boissons est proposée, notamment pour les théâtres qui disposent à l'intérieur de leurs locaux d'un espace de restauration où la clientèle peut être accueillie. Donc on pourrait étendre à d'autres secteurs d'activité. Donc là, c'est aussi un dispositif qui a été expérimenté sur la place de l'Odéon, qui dispose depuis d'un foyer dans ses locaux. Enfin, la troisième grande thématique d'évolution concerne les emprises autorisables, notamment la possibilité d'autoriser une emprise en vis-à-vis d'un commerce sur des trottoirs désormais d'une largeur minimale de 6 mètres, alors que le règlement actuel prévoyait une largeur minimale de 9 mètres. Donc ces dispositifs pourraient être admis sur des trottoirs de 6 mètres dans la mesure où l'espace de circulation pour les piétons reste suffisant et dans la mesure où la règle intangible du mètre 60 dédiée à la circulation piétonne est maintenue.
Ça possible.
Donc cette règle des 1m60 figurait déjà dans la réglementation actuelle, elle est reprise de façon stricte et sans dérogation. Il s'agit bien entendu d'une distance minimale, c'est-à-dire qu'on n'octroie pas le reste du trottoir lorsqu'on a déduit le 1m60 pour les piétons. Et donc une largeur nettement supérieure peut être exigée en fonction de la configuration des lieux ou de l'importance du flux de circulation piétonne et après avis évidemment de la préfecture de police.
Minimale,
c'est bien. Une distance minimale, c'est minimal. Mettez-les-vous une chaussée. Voilà, donc là, typiquement, le 1m60 n'est pas respecté et les piétons sont conduits à se détourner vers la chaussée. La largeur des emprises de terrasse. Dans la réglementation actuelle, aucune terrasse ne pouvait être admise en deçà d'une largeur de 60 cm. Il est proposé que désormais des terrasses d'une largeur très légèrement réduite puissent être autorisées à la condition stricte de réserver le mètre 60 pour la circulation des piétons. Et il ne s'agit pas évidemment d'autoriser des dispositifs de 30 cm. Les zones à régime particulier, elles sont remplacées en fait par de nouvelles dispositions dans le projet de nouveau règlement. Donc certaines installations peuvent, à titre exceptionnel ou permanent, être autorisées dans des zones fermées à la circulation générale ou à vitesse de circulation limitée. Dans ce cas, les arrêtés du maire ou du préfet de police permettront à certaines voies ou espaces publics de disposer de ces facultés. Ce sera notamment la possibilité d'installer des contre-terrasses sur des placettes circulées mais à la circulation douce. Voilà, j'en ai terminé.
Merci beaucoup, Hélène. Alors, mesdames et messieurs, nous allons commencer la discussion. Donc, je vous rappelle les deux principes que Mme Marchandier nous a rappelés à l'ouverture de ce PowerPoint. Premièrement, l'occupation privative de l'espace public est interdite. C'est le principe. Toute dérogation est encadrée par le règlement. Deuxièmement, il a été arbitré par le maire de Paris le 1m60 minimum de passage pour les piétons qui ne peut souffrir aucune dérogation. Je vous rappelle que nous sommes une des rares villes qui a décidé que ce 1m60 minimum était non dérogatoire. Il avait été envisagé pendant un temps de mettre 1m80, mais la dérogation portait à 1m50, avec dérogation possible à 1m50. Nous sommes donc deux villes en province qui ont des décisions qui portent sur 1m60 dérogatoire à 1m40. Nous avons décidé à Paris d'avoir 1m60 sans dérogation possible. Donc là-dessus, il n'y a jamais d'autorisation qui est donnée, qui serait donnée, s'il n'y a pas le 1m60 minimum. Évidemment, on peut avoir plus, mais le 1m60 minimum fait partie des principes sur lesquels nous avons envisagé de ne pas revenir. Voilà quelques mots que je voulais dire d'emblée pour que les choses soient claires. Le principe, c'est l'interdiction de l'espace public. Deuxièmement, le 1m60 du passage de piétons est une donnée sur laquelle nous n'avons pas l'intention de revenir. Mais, naturellement, la discussion est engagée. Qui veut intervenir? Je donne la parole. Allez, soyez patient. Monsieur Sidon, comment?
Oui, j'ai des petites questions de précision pour être sûr d'avoir bien compris. En plus de la règle du 1m60, c'est le cheminement des piétons, on est d'accord? Est-ce qu'il y a en plus une règle du tiers? Et dans quel cas, c'est une règle de la moitié du trottoir qui est autorisée pour les terrasses de les cafés.
Bonne question.
Bon, on va répondre.
Allez-y. D'accord. Tout simplement, si je vous pose cette question, c'est que j'ai fait cette nuit la règle de ce cas.
Monsieur Chédon, juste un truc. Hein.
Oui.
On parle du prochain règlement, hein. D'accord?
Oui.
Bon, d'accord.
Donc, oui, mais je pense que c'est temps de prévenir. C'est juste que actuellement, le marquage, tout ça, il y est, je veux comprendre aussi votre principe de marquage, puisque le marquage est aux deux tiers depuis la façade jusqu'au trottoir. Il prend actuellement deux tiers.
C'est à moi de parler.
Pardonnez-moi. Ah, pardonnez-moi. Donc, actuellement, il est aux deux tiers. Et donc, là, les cafetiers considèrent que ça, c'est la limite à laquelle ils peuvent mettre encore une table de plus. Ce qui veut dire qu'ensuite, il y a une chaise. Ce qui veut dire que quand c'est occupé, il n'y a plus que 75 cm de passage. Voilà. Alors, donc, je voudrais juste avoir précision, règle du tiers. Règle quand c'est un tiers, quand c'est un demi. Et puis, le mode de marquage, parce que sinon, il prête à confusion. Et voilà. Ensuite, là, est-ce que vous, j'ai vu ce que vous tentez de faire, et je vous approuve bien sûr sur le plan législatif, est-ce que vous avez en attendant la possibilité de supprimer l'autorisation de terrasse s'il y a des infractions répétées, c'est-à-dire s'il n'y a que 75 cm de passage à plusieurs reprises, constatées régulièrement toute une année. Ensuite, le chauffage, vous avez parlé du chauffage au gaz, est-ce que le chauffage électrique sera autorisé, pourquoi ne pas le supprimer? Et enfin, les terrasses dans les cours intérieurs d'immeubles sont-elles autorisées ou interdites? Et ça, j'aimerais bien, je ne sais pas si vous pouvez me répondre ou si la préfecture peut me répondre.
Ah, juste un truc, c'est un espace privé. Les cours intérieurs sont des espaces privés, c'est pas l'espace public. C'est le règlement de copropriété des immeubles qui
prévoit. Oui, mais c'est bon, dans le cas d'espèce, c'était un terrain qui appartient à la ville immobilière.
Ah, ça aussi, c'est
votre affaire ou pas?
Non, c'est pas ici, c'est vrai, c'est notre affaire, on peut en parler à un autre moment.
D'accord.
Mais c'est pas.
D'accord.
C'est pas grave, on peut poser la question. D'autres questions sur ce même genre de sujet? Madame Bourguignon.
Excusez-moi, moi je pense que ça serait plus efficace si vous répondiez déjà, parce que sinon on va répéter les mêmes questions, donc je pense que comme ça on annulera les questions qui auront déjà été répondues, si vous voulez.
Ce serait bien comme ça, peut-être, oui.
De la direction d'urbanisme, elle nous a rejoint. Donc, effectivement, si vous avez pris les questions, Elisabeth.
D'accord. Sur la suppression des autorisations, c'est quelque chose. Enfin, je rappelle que l'espace public est en tête du monde. Personne n'a le droit dessus. C'est des droits précaires et révocables. Et donc, les autorisations sont d'une durée d'un an renouvelable. Et donc, d'une part, les autorisations peuvent ne pas être renouvelées. Par ailleurs, si elles ne sont pas respectées, elles peuvent être retirées après une procédure contradictoire. Et ça rejoint complètement le point que vous évoquiez, à savoir la nécessité d'avoir des sanctions efficaces, parce qu'à supposer qu'on retire une autorisation, si on continue à verbaliser à 35 euros la personne qui a sa terrasse sans autorisation, ça fera pas changer les choses. Donc c'est pour ça qu'on pense vraiment que la mesure d'astreinte administrative est le complément indispensable de toute évolution.
D'autre part, je vais vous poser une question sur
Oui, alors, il faut distinguer ce qui est autorisé des débordements. Oui. Quand vous dites qu'un commerçant déborde, il n'est pas dans une emprise autorisée. Donc, pour ce qui est du tiers et de la moitié, le règlement aujourd'hui autorise le tiers et autorise d'aller jusqu'à la moitié. Le règlement actuel, hein, actuel. La différence entre les deux, c'est quoi? C'est un principe de taxation. C'est-à-dire que la taxation de base du tiers est moins élevée que celle qui est au-delà du tiers. C'est tout.
On peut donner une autorisation. Il faut que l'autorisation soit donnée par la mairie d'aller au-delà du tiers. D'accord? C'est pas le commerçant lui-même qui décide qu'on lui donne le tiers qui peut aller jusqu'à la moitié. C'est la mairie, après instruction avec la préfecture de police, avec le maire d'arrondissement, etc., qui peut décider que dans certains cas, étant donné la configuration des lieux, le passage, etc., on peut aller au-delà du tiers à la demande du commerçant. D'accord. Si cette autorisation lui est donnée par la mairie, il paye un supplément au-delà du tiers. Mais tout seul, le commerçant ne peut pas décider qu'il y a des clous par terre pour un tiers et que lui peut donner la moitié. Ça n'existe pas.
J'ai bien compris.
D'accord.
Alors, est-ce que, en complément, est-ce que vous pouvez m'expliquer dans quel cas vous donnez l'autorisation d'aller jusqu'à la demi, dans quel cas de figure, me dire pourquoi il y a un marquage ou deux tiers sur toute la place à Contrescar. Ben, je vais les mesurer cette nuit.
Deux tiers?
Oui, deux tiers, oui.
J'ai les mesures, hein, je vous les communiquer.
C'est un cas particulier.
Non, ça, c'est un cas exemplaire.
Non, toute la place à Contrescar, Delmas et la Contrescar, je l'ai mesuré cette nuit à 3h du matin pour être bien tranquille, et c'est deux tiers. Le marquage. La réalité, c'est pire. Le marquage, j'ai les chiffres, je vous les communiquerai, on les mesurera si vous voulez, quand vous voulez.
D'accord, bon, regarde. Mais donc,
dans quel cas, vous pouvez aller à la demi au moins, mais...
Alors, écoutez, toutes les demandes, vous pouvez toujours faire. Vous êtes commerçant, vous avez le droit de déposer une demande sur n'importe quelle distance, quelle dimension.
Oui.
Lorsque nous recevons une demande, nous l'instruisons, nous consultons le maire d'arrondissement, la préfet de police et la direction de la voirie. Au retour d'avis de ces services, on prend une décision.
Et on va mesurer, on va regarder si ça gêne ou si ça gêne pas. Et donc on regarde selon la configuration des lieux. On ne peut pas dire.
C'est-à-dire, pour simplifier, est-ce que votre critère, c'est qu'il y ait un passage assuré minimum d'un mètre 60, c'est ça?
Alors, il y a le principe du passage d'un mètre 60, bien entendu, mais la direction de la circulation du transport et du commerce, d'après le de police, peut faire des observations sur la circulation des piétons, la direction de la voirie aussi, et nous-mêmes, dans l'instruction des demandes, lorsqu'on est sur une voie, par exemple, ou un tronçon de voie sur lequel on souhaite qu'il y ait des choses qui soient autorisées de façon un peu cohérente, on cherche à tendre vers une cohérence dans les dimensions autorisées. Et dans la bonne circulation des piétons, c'est-à-dire qu'on cherche aussi à avoir des cheminements qui soient rectilignes.
Pour être clair et bien compris, si j'ose dire, nous avons refusé beaucoup d'extensions de terrasses, par exemple parce qu'il y a une sortie de métro et que les bouches de métro, ça amène un flux de piétons énorme. Et donc ce flux de piétons aurait été gêné par la terrasse. Donc moi j'ai en tête le nombre de terrasses que j'ai refusées encore récemment parce que ça aurait pu gêner le passage des piétons. Et je dois dire que la voiture de police était dans cette situation aussi. Donc voilà.
doit être à plus de la moitié de la surface du trottoir depuis la façade.
Alors attendez, le marquage, qu'est-ce qu'il fait ? Il matérialise l'emprise autorisée.
Pardonnez-moi.
Le marquage matérialise l'emprise maximale autorisée.
Parfait, mais vous ne le posez pas. Quand je dis vous, pardonnez-moi, vos services ne le posent qu'au maximum à la moitié de la surface du trottoir.
Si je ne peux pas vous répondre mieux, je vous réponds, il matérialise l'emprise autorisée.
Vous allez voir du trottoir, et il y a toujours, en tout cas, au minimum 1,60 entre le premier mobilier urbain et le premier matériel privé.
D'accord, donc je m'annule le règlement quand le règlement dit que c'est au maximum à la moitié.
La règle de base, c'est un tiers, et oui. On peut aller jusqu'à 50% si on a un vrai trottoir large.
Donc,
et par ailleurs, quand on dit les 50%, c'est 50% de l'occupation, enfin, de la surface du trottoir, ça peut être en deux morceaux.
Non, c'est pas en deux morceaux.
Un marquage qui va jusqu'aux deux tiers, ça ne peut pas être le nôtre.
D'accord, ils sont marqués, c'est des bases à 54. D'accord, c'est deux tiers, c'est une
Non, c'est pas des...
Non, c'est juste constatation. Le marquage marque l'emprise maximum avec le client compris.
C'est pas
la table, on est d'accord. C'est pas la limite de la table, c'est la limite avec le client compris.
La logique, quand même, c'est le piéton au cœur de l'espace public. Hein, donc,
oui.
Il ne s'agit pas de savoir si c'est une table, une chaise, un porte-menu ou un client.
C'est au total.
Il ne doit plus rien avoir après. D'accord. Merci beaucoup.
Madame Bourville, vous avez posé une question.
Oui, alors j'aurais plusieurs questions. D'abord, merci pour organiser cette concertation. On a été heureux que le délai soit un petit peu retardé, et je pense que peut-être il serait nécessaire de retarder encore un peu, parce que si vous voulez, compte tenu quand même de la caractéristique sensible de cette question, du nombre d'années depuis lesquelles on attend cette réforme, et du fait que ça ne sera pas facile de refaire une réforme tous les 3 ans, je pense qu'il vaudrait mieux prendre du temps pour aller jusqu'au fond des problèmes et les traiter que d'aller trop vite. Donc je pense que...
Vous inquiétez pas, on parle beaucoup, Madame Bourville, et très vite. Et d'autre part, si vous pouvez nous aider à faire bouger un peu la législation, c'est encore plus intéressant.
C'est refiler le bébé, ça.
On ne reprend pas sur les autres, on dit simplement pour appliquer un règlement, il faut pouvoir être sanctionné. Ça fait longtemps qu'on demande au législateur de pouvoir faire quelque chose.
Vous pouvez compter sur nous, on va agir vers notre député et vers d'autres députés, il n'y a aucun problème. Tout ce qui peut contribuer à améliorer la situation catastrophique est bon à prendre. J'aurais énormément de choses à dire, mais je vais me limiter. Déjà, je voudrais lever un malentendu, parce que dans la presse, on sait bien que la presse dit des choses et que c'est pas toujours la vérité. Dans la presse, on lit un peu partout que les bâches en plastique vont être interdites. Dans le projet de règlement que vous avez diffusé, on dit qu'elles vont être interdites sur les Champs-Élysées. Moi, j'aimerais savoir si c'est ce que dit la presse, que vous êtes censé dire dans la presse, qui est vrai, et que nous souhaitons ardemment, c'est-à-dire que les bâches plastiques soient interdites sur tout Paris et pas simplement sur les
Champs-Élysées. Dans le règlement.
Et que ça soit marqué dans le règlement explicitement.
Pour l'instant, il n'y a pas de règlement explicitement. C'est pour l'instant, c'est un projet.
Oui, mais dans le projet, alors.
Dans le projet que nous avons, c'était de demander aux professionnels de s'équiper d'autres choses que les bâches plastiques.
Surtout Paris.
Et c'est pas marqué dans le projet, c'est pas marqué.
C'est ce qu'elle dit qui compte. Si, c'est dans la charte, dans les prescriptions de qualité.
Ah non, mais j'ai le projet, c'est pas marqué. C'est... Ah non.
Vous pouvez quand même. Bon, on est en esprit de confiance. Je suis responsable de
on
n'a pas vu. Je suis responsable, je suis là pour vous parler.
On l'a pas vu.
Je suis là pour raconter des cracks, c'est pas la peine. Je peux faire autre chose. Donc ce que je vous dis, c'est que ce sera pris en compte, et nous en avons déjà parlé aux professionnels, pour les prévenir. Et donc nous leur disons, et nous leur redisons ici, que notre projet, parce que nous avons connu ce projet, c'est de demander aux professionnels de s'équiper à partir de 2011 d'autre chose que des bâches plastiques. Naturellement, nous donnons un délai à ceux qui sont équipés de bâches plastiques pour changer leur équipement.
Quel délai ?
Ça peut être très facile pour quelqu'un qui a des épaules larges, une grande brasserie, de changer l'équipement. Mais pour quelqu'un qui a un petit café, on n'a pas l'intention de le mettre en faillite. Donc nous allons leur donner un délai.
Quel délai ?
Mais ce que nous voulons, c'est-à-dire de 2011, les nouvelles terrasses ne soient plus équipées de bâches plastiques. Peu à peu, cet équipement disparaît. Voilà.
Alors, madame, ça peut juste préciser. Alors, pour préciser, donc, c'est pas écrit, les bâches souples sont interdites, mais c'est dans le 3.3.3 du règlement qui dit qu'il peut être autorisé dans les terrasses couvertes pendant les périodes hivernales l'installation d'écrans transparents, démontables, rigides, vitrés et d'aspect esthétique satisfaisant. Donc, à contrario, il peut pas être autorisé autre chose.
Voilà. Est-ce qu'il faudrait pouvoir le marquer explicitement, comme ça, ce serait clair.
Si vous voulez, hein.
S'il vous plaît.
Autoriser des structures rigides,
Vigie.
Oui.
Et on peut mettre, à contrario, il n'est pas autorisé.
Exactement. De... Voilà, c'est marqué pour les Champs-Élysées, mettez-le pour
c'est
le reste.
Pour les Champs-Élysées, mettez-le pour tout. Et alors, justement, excuse-moi, mais je vois une petite contradiction. Vous venez de dire, d'abord, s'il y a d'autres textes qui existent, y compris qualitatifs, sincèrement, si la concertation a lieu, on aimerait qu'elle porte sur tout. Donc,
non,
on aimerait.
La participation. Donc, on vous a donné trois thèmes. Il y a trois thèmes sur lesquels on
s'exerce dans la partie qualitative. Non, mais d'accord, mais on aimerait avoir ces textes,
puisqu'on les a pas. Est-ce qu'elle voulait, madame. C'est... Madame la directrice.
Alors, j'ai pas bien compris parce que vous avez parlé de chartes, que l'interdiction des bâches apparaîtrait dans les chartes.
Dans tes prescriptions qualitatives.
Alors, excusez-moi, mais si l'interdiction des bâches apparaît dans les chartes, ça veut dire que les chartes, sincèrement, nous on est opposés au principe des chartes, on préférait que tout soit dans le règlement. Parce que, oui, parce que les chartes, on a testé leur impossibilité, on a essayé, il y a quelques
boulevard Saint-Michel.
On a essayé de faire une charte rue Montorgueil, ça s'est soldé par un échec absolument total. On n'a pas écrit la première ligne de la charte. Donc, les chartes, je crains que ça résulte de rapports de force locaux et que si on n'y arrive pas, il n'y aura pas de charte et donc ça sera au bénéfice de la situation existante. Si vous voulez. Donc nous on préférait que tout.
Non, quand il y a la charte, c'est le règlement qui s'applique.
Oui, mais quand le règlement ne dit rien, si vous voulez, là vous me dites l'histoire des vaches, ça sera dans les chartes.
Non.
J'ai pas bien compris.
Non, dans les prescriptions, vous avez dit, les prescriptions de qualité.
Premièrement, je viens de vous lire un paragraphe qui dit sont autorisés des dispositifs rigides. Préférés, on peut dire, sont interdits.
Oui, on préfère, oui, on préfère.
A priori, on pense plutôt. Enfin voilà.
Bon, on préfère dans le sens.
On a tous la même chose.
Je pense que c'est le mieux.
Il est écrit dans le règlement qu'a priori, les dispositifs souples, c'est fini, avec un délai raisonnable pour les gens qui viennent de s'acheter une bâche souple. A priori, donc c'est interdit. Par ailleurs, comme il est annoncé dans le chapeau du règlement, il est prévu d'avoir une charte qualitative qui est un peu un cahier de recommandations, comme ça existe dans d'autres villes, parce que les gens n'ont pas forcément la possibilité de rémunérer un architecte, quelqu'un pour les aider à concevoir leur dispositif. Et donc, on aura un cahier de recommandations dans lequel on verra de façon très explicite, enfin, un peu comme on avait fait, je ne sais pas si vous connaissez le document qui avait été fait sur les vitrines, en fait sur les devantures, c'est des conseils qui sont donnés aux gens pour avoir des dispositifs esthétiques, économes en énergie. Donc on aura un dispositif de ce type-là. Et alors après ça, il y a des charges locales. Et voilà.
Et qui ne concernent pas que les aspects esthétiques, parce que c'est
pas
ça.
Non, je sais pas.
D'accord.
On dit tous la même chose. Alors si vous arrêtez de dire, c'est pas ce qu'a dit, ce qu'a écrit. Bon, donc on dit tous la même chose. Donc les charges locales, là, je crois qu'on on s'est vu à la mairie du deuxième, donc on en a déjà parlé, a priori. On fait un règlement qui s'applique par définition à Paris. Au sein de Paris, il y a des situations qui sont extrêmement différentes. Il y a des quartiers dans lesquels le commerce meurt, et il y a des quartiers dans lesquels il est très, voire trop dynamique. Donc on a du mal à imaginer qu'on sait faire un règlement qui, sans autre forme de médiation, peut traiter de manière pertinente l'ensemble des situations. Donc c'est pour ça qu'il y a un règlement qui fixe un cadre, le champ maximal des possibles et qu'ensuite paraît pertinent pour tenir compte de la diversité des situations sur le territoire parisien. Le sud du 16e, c'est pas le premier arrondissement, le 20e n'a pas forcément les mêmes problèmes que le 10e. Il paraît pertinent d'avoir un travail de concertation au plus près du terrain pour voir comment ce règlement peut se décliner en tenant compte des situations locales. Sinon, on aura. Bon, alors par ailleurs, je dis que les chartes, est-ce qu'on arrive à les signer? De toute façon, comme c'était dit dans le préambule du PowerPoint qui vous a été présenté, il n'y a pas de droit à l'occupation du domaine public. Et donc, in fine, les autorisations, elles peuvent être délivrées en tenant compte du travail de concertation qui aurait été mené. Les gens ne savent pas, ça ne retirera rien au fait qu'il y aura un diagnostic qui aura été établi et on aura un guide. Ce qui est important dans la manière dont les autorisations sont délivrées, c'est qu'elles soient non discriminatoires et que ce soit les mêmes règles qui s'appliquent à tous. Donc le travail qui est fait d'élaboration des chartes a l'intérêt de permettre de découvrir localement la manière dont on va appliquer un règlement avec ou sans signature si on n'arrive pas à signer.
Je n'ai pas tout compris dans cette histoire de charte. On ne vous demande évidemment pas de donner des projets de charte à caractère très local. concernant, avant que ces chartes soient établies, mais dans l'avertissement, il est bien précisé qu'il y aura deux types de chartes. Une charte de qualité à caractère général, qui sera des conseils, etc. Y a-t-il un projet concernant cette charte-là ?
Mais monsieur, soyons clairs, nous sommes en train d'actualiser le projet de règlement. Une fois que ce projet de règlement sera défini, et à partir de ce qui aura été défini après la concertation, on fera le cahier de recommandation. Pourquoi voulez-vous qu'on fasse, comment voulez-vous qu'on fasse un cahier de recommandation pour dire des choses que nous ne savons pas encore ? Si, par exemple, il est définitif de dire qu'il n'y aura plus que des écrans rigides, dans le cahier de recommandation, il sera écrit qu'il ne vaut mieux pas acheter des bâches en plastique parce que les bâches en plastique seront interdites. Mais si on ne met pas dans le règlement, pourquoi voulez-vous qu'on fasse ce qu'on fasse dans le cahier de recommandation ? Pour l'instant, je ne sais pas ce qu'il y aura dans le règlement. Donc le cahier de recommandation sera fait après que le règlement sera signé par le maire. Donc, je veux dire, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Et de toute façon, il découlera du règlement.
C'est précisément ce point-là qui nous semble toujours pas très clair. Une charte de qualité sera annexée au présent règlement et elle illustrera et apportera des précisions et des conseils.
Ben oui.
Alors si c'est annexé au règlement, ça apporte des précisions, des conseils, quelle valeur juridique pourra avoir cette charte, hein, je parle de la...
C'est rien, c'est des conseils.
Donc ça n'aura pas de valeur réglementaire.
Je vais vous expliquer quelque chose.
Que ce soit quand même plus précis dans l'avertissement et dans les articles qui en découlent.
Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Par exemple, on a un règlement des enseignes. C'est compliqué, les enseignes. D'accord ?
Bon.
Je ne sais pas sûr. Je ne suis pas sûr, non, je ne suis pas sûr du tout. D'ailleurs, ne vous trompiez pas. Les enseignes, c'est compliqué. Or, vous avez des commerçants, moi je connais ces cas-là, de jeunes commerçants qui s'installent et qui mettent des enseignes parce qu'ils trouvent que c'est beau, etc. Dans des endroits où Paris, pour un parcours très réglementé, hein, il y a des enseignes très, très interdites dans certains endroits, etc. Bien, on leur fait enlever leurs enseignes si cette enseigne ne marche pas, bien entendu. Donc ça veut dire que ce malheureux commerçant qui arrive, qui dépense de l'argent pour s'installer, qui paye une enseigne, est obligé d'enlever son enseigne, et donc de perdre de l'argent, et de remettre une enseigne confortable. Donc nous préférons lui donner un cahier de recommandation pour lui dire que dans l'endroit où vous êtes, les enseignes rouges, ça ne marche pas, comme dans une grande partie du centre de Paris, qu'on va mettre le rouge, ne payez pas un enseigniste qui vous met du rouge. Donc c'est un petit peu ça qu'on va faire pour les terrasses, en disant voilà l'endroit où vous êtes, voilà ce que vous pouvez faire, voilà ce que vous ne pouvez pas faire. Mais il faut que le règlement soit adopté d'abord.
Oui, juste pour terminer sur les chartes, oui, excusez-moi, on a descendu ensemble le boulevard Saint-Michel il y a un an environ, et vous connaissez l'état du boulevard Saint-Michel. Il existe une charte de qualité du boulevard Saint-Michel depuis plus de 10 ans, et le boulevard Saint-Michel ne cesse de se détériorer, donc je ne suis pas sûr que ce soit la panacée et la limite à certains excès, parce que, de fait, soit on n'arrive pas à les signer, soit même quand on les signe, même au bout de 10 ans, même quand ça a été voté par la droite, puis repris par la gauche, ça ne marche pas. Donc je ne suis pas sûr que ce soit une protection efficace contre les excès. C'est une remarque sur les charges, je ne pense pas que ce soit la solution.
Voilà. Je me permets juste de vous dire que pour l'instant, le système de sanctions n'a pas changé, monsieur. Le système de sanctions des excès n'a pas changé. C'est-à-dire que si on met 35 euros aux gens que vous connaissez sur le coin Saint-Michel, qui effectivement mettent des étalages n'importe où et assez des menaces, c'est pas ça qui va les faire changer d'avis. Par contre, si on avait un système d'astreinte de je ne sais pas combien de milliers, de centaines d'euros par mètre carré supplémentaire et par jour, ça changerait quand même complètement les choses.
Mais la charte, justement, de toute façon, ne permettra pas de sanctions. La charte, c'est juste comme vous l'avez dit, c'est un conseil. Hein.
Pas du tout.
Si vous avez dit un instant.
Les chartes locales, le carnet de recommandations, c'est un conseil. Les chartes locales sont annexées au règlement.
Elles sont annexées au règlement, mais dans le règlement, regardez, Mme Borne va le confirmer, il est marqué que la charte, c'est une recommandation. Mme Borne, vous le.
On ne parle pas de la même chose.
Ça n'a pas de la même chose.
A priori, on a, comme Mme Pensola vient de dire, on a un guide, un cahier de recommandation. Un cahier de recommandation, on va dire, pour ne pas employer le même mot, qui va aider les commerçants à choisir d'emblée, donc, de manière à ce qu'il n'y ait pas de présenter une demande d'autorisation, lors de tout est à refaire, c'est pas de chance, vous n'avez pas eu pour rien. Voilà. On a exactement la même chose dans le PLU, vous avez un cahier de recommandation environnementale, c'est le même principe en fait, donc c'est des conseils qui sont donnés. Les chartes, a priori, les chartes, elles permettent de définir une politique adaptée à chaque, enfin, aux quartiers dans lesquels il apparaît nécessaire de préciser les modalités d'application du règlement. Il y a des secteurs dans lesquels, enfin, on évoquait tout à l'heure la règle du tiers. Donc, normalement, les terrasses sont autorisées dans la limite du tiers. Il peut se faire que, parce que l'espace public est un bien rare et sur lequel il y a beaucoup de demandes, dans certains secteurs, on considère qu'il faut se limiter à 20%. Il peut se faire que dans certains secteurs, on considère que les terrasses doivent fermer à 22 heures. C'est ce genre de sujets qui ont vocation à être discutés dans des chartes locales. Voilà. Et qui pourront faire l'objet d'une concertation entre les maires d'arrondissement, avec l'appui des services de la ville, avec les associations représentées, avec les commerçants. Donc c'est ce genre de règles particulières qui a des situations particulières qui pourront être
faites.
Oui.
Ça n'a rien à voir avec les...
D'accord, mais il est marqué... Oui, d'accord, et on va clore sur le sujet, mais parce qu'il y en a d'autres. Simplement, dans le règlement, il est marqué que la valeur d'une charte, c'est une recommandation.
Non, non.
C'est marqué dans le...
Soit la charte est signée et est appliquée de bonne foi par les gens qui l'ont signée. Soit la charte n'est pas signée, et dans ce cas-là, c'est la feuille de route qu'après concertation, la ville s'est donnée pour délivrer les autorisations. Et les autorisations, ben voilà, si on ne les respecte pas, on est sanctionné. Quand on regarde par exemple ce qu'on a fait sur le boulevard de Barbès, on a considéré que les pressions et les conflits d'usage étaient tels il était plus pertinent d'avoir des étalages.
D'accord.
Donc on a retiré les étalages. Donc, je crois qu'on a un débat un peu...
Sur la pression des éditeurs et du maire du
huit. C'est la concertation, voilà.
Ça s'appelle la concertation, monsieur. Ça s'appelle pas la pression.
Voilà. Donc, il faut être conscient du fait que si une fois qu'on a défini une politique sur un quartier, les autorisations peuvent être délivrées en considération de la politique qui a été définie et concertée localement. Après ça, on revient au sujet qui nous occupe, c'est si on délivre des autorisations, encore faut-il qu'on ait les moyens de les faire respecter. Mais je crois qu'il y a un débat un peu qui relève d'un débat très théologique là, de savoir si c'est des recommandations ou pas. De toute façon, à partir du moment où une politique a été arrêtée sur la base d'un diagnostic qu'on a mené en commun avec les mairies d'arrondissement, les associations, représentant les différentes sensibilités et où on a des axes politiques clairs qui ont été définis sur la manière de gérer les étalages et les terrasses dans un secteur, on peut décider de délivrer des autorisations sur la base de ces orientations.
Monsieur.
Oui,
Gérard Siad, président du SNEC.
Parlez bien dans votre micro. Oui, donc Gérard Siad, président du SNEC. Donc je crois que finalement les débats démarrent bien, madame Solal, parce que vous avez posé en introduction une recherche de points d'équilibre et veiller à ce que finalement les nouvelles réglementations soient l'opportunité d'y tendre. Nous avons finalement des points communs avec les revendications des associations riveraines, c'est-à-dire que l'ensemble des représentations professionnelles sont dans des postures légalistes et pensent qu'on ne peut défendre que les gens défendables. Or, effectivement, là où il y a une brèche, c'est qu'il existe une disproportion des sanctions par rapport aux enjeux commerciaux et la tentation de s'affranchir de la loi en matière de terrasse. Donc nous-mêmes, organisations professionnelles, demandons les mêmes choses finalement que les associations riveraines, de mettre de l'ordre. Il n'existe pas de réglementation sans sanction. Et là, sur le domaine des terrasses, on peut dire qu'il n'existe pas de réglementation sans sanction adaptée. Or aujourd'hui, elles ne le sont pas tant en termes de dissuasion qu'en termes de logistique. C'est-à-dire que quand on fait une expertise, notamment avec les associations riveraines, lorsqu'on a, et Mme Pompina le confirmera, je pense, la possibilité de faire une photographie d'un secteur à fort problème, hein, on le fait sur le premier, on l'a fait sur le Grand Orgueil, avec effroi, on s'aperçoit que beaucoup d'établissements se sont placés dans une habitude d'être complètement en dehors de la loi, ont finalement se sont installés dans un fonctionnement commercial qui aujourd'hui fait que si on leur demandait d'en sortir, ce serait une pénalisation terrible. Donc c'est vrai que nous, aujourd'hui, on demande à ce que, effectivement, comme les associations riveraines, pour tendre au point d'équilibre, on se donne des moyens d'avoir des sanctions adaptées. Alors c'est vrai qu'une des propositions que nous, on peut faire autour de ces sanctions, c'est de dire que, pourquoi ne pas s'inspirer de toutes les sanctions qui fonctionnent, c'est-à-dire celles qui sont d'une part en proportion, ensuite additionnelles, parce qu'on sait notamment que pour d'autres types de RP, ce qui est très dissuasif, contrairement à la sanction ponctuelle que l'on répète ponctuellement, qu'importe à la limite le montant, le principe d'additionner, c'est-à-dire que sur les autorisations de l'huile et d'autres aspects de ce type, le principe c'est que l'établissement a une première petite sanction, mais elle ne disparaît pas, elle s'inscrit. Et puis la seconde se transforme en un avertissement, puis un second, et puis ça peut conduire finalement à l'ultime sanction hein, que chacun réchigne à faire, qui est la fermeture administrative. La préfecture se donne tous les moyens du principe de la graduation avec toutes les phases préventives qui permettent bizarrement de protéger les établissements contre eux-mêmes pour veiller à ce qu'on n'en arrive pas à l'ultime solution. Or là, sur les terrasses, on passe très brutalement de l'amende de 35 euros qui ne s'inscrit nulle part parce qu'elle se donne, mais finalement, l'exploitant peut s'installer dans le fait de la payer régulièrement. Une amende de 35 euros, c'est une table de gagner sur un espace public, 15 minutes de temps. Donc on voit bien certains exploitants étant dans ce cynisme-là. Et je crois que ça fausse beaucoup les donnes, parce que les mauvais élèves, finalement, ont dressé un peu les riverains, et à juste titre, qui remplissent un rôle citoyen, en les dénonçant, et font qu'aujourd'hui, beaucoup d'exploitants qui, eux, sont dans la légalité, c'est pour ça que nous, syndicats, ça ne nous dérange pas du tout, finalement, d'être du côté des riverains, parce que c'est notre devoir républicain aussi, c'est qu'aussi, on défend les établissements qui, eux, sont en la règle. Parce que ça crée après de la distorsion concurrentielle scandaleuse, ça pénalise les bons élèves, et donc quelque part ça donne à celui qui s'affranchit de la loi des armes concurrentielles insupportables, et puis ensuite c'est la porte ouverte à la tentation de se dire, si le voisin le fait, finalement moi j'ai été bon élève, mais je ne vais pas me gêner pour le faire. Donc nous, on est vraiment dans cette option-là, et en termes de proposition, donc, on demande à ce que ce soit additionnel, que ça puisse s'inscrire, et que de cette manière-là, bizarrement, on protégera énormément les établissements, parce qu'on sait, Mme Cohen-Soleil, à quel point vous êtes attaché à ce point d'équilibre dans votre arbitrage, de la fois préserver la dynamique commerciale, économique, avec tout ce que ça apporte en termes de cohésion sociale, citadine, et en même temps veiller à ce qu'il y ait de vraies règles républicaines, vous l'avez parfaitement exprimé. Donc, sachez en tout cas, pour éviter toute polémique, que nous, syndicats, on s'inscrit complètement dans cette même recherche. Alors ensuite, les modalités, donc, sur la... inspirons-nous de tout ce qui fonctionne en termes de sanctions. Dès que c'est additionnel, on le voit bien avec le permis à points, on le voit bien avec bien d'autres... bizarrement, ça évite bien des écueils, et ça... en cas de vandale. Et un dernier mot, merci aussi de veiller à ce que, si des mesures étaient prises, on puisse permettre des moratoires, parce que malgré tout, les commerces sont en souffrance, on le sait, et que par exemple, sur les chauffages nuls, je pense, y compris syndicat, remet en question la nécessité d'adapter pour des raisons d'écologie, de cohérence, etc., les chauffages, mais effectivement, pouvoir donner 2 ans. Je pense que c'est du domaine du raisonnable pour laisser aux exploitants le fait d'amortir notamment des matériels que parfois ils viennent d'acquérir. Donc je vous en remercie, Mme Cohen-Soleil. Et de même que pour les bâches, comme vous l'avez très bien exprimé.
D'accord. Donc j'ai 2 demandes de parole, monsieur et monsieur.
Je fais
une petite incursion dans l'exposé de Mme Pina au sujet des chars, parce que. Pour le Marais, nous en avons signé une il n'y a pas très longtemps. On n'a pas eu de difficulté pour la signer, mais par contre, pour ce qui est de son application, en réalité, il ne se passe rien. Moi, j'ai une opinion sur les chartes. C'est que ce soit un peu des cache-misères. C'est-à-dire que quand on ne sait pas trop quoi faire, on signe une charte en se disant ça ne mange pas de pain, ça ne fera pas de mal. La réalité, c'est que ça ne fait pas de bien. Donc, ma position personnelle est de dire. Faisons en sorte que les règlements soient d'une clarté indiscutable. Et après, faisons-les fonctionner. Et puis, éventuellement, si nous décharge, si vous voulez, mais honnêtement, c'est quand même dans le règlement et dans les termes du règlement qu'il faut trouver la voie. Alors, à ce propos, j'ai 2 remarques concernant l'avant-projet qu'on a reçu. Quand on écrit, par exemple, la règle du tiers, 2 tiers s'appliquera en principe. utile. Attention, dans un règlement, il n'est pas question que les clauses s'appliquent en principe. Elles s'appliquent. Est-ce qu'on paie nos impôts en principe? Non, on paie nos impôts. Donc ça doit s'appliquer. Je voudrais qu'on retire cette atténuation.
Monsieur, juste un truc. Je vais vous dire quelque chose. Nous avons des règlements. Et nous sommes en train d'en parler. Bien. Les fonctionnaires que vous avez devant vous, ils ont comme mission d'écrire ces règlements, ensuite de les respecter. Donc, ce que je voudrais, c'est faire des règlements qui vous sont applicables. C'est-à-dire qu'il se peut qu'un jour, exceptionnellement, on puisse avoir, et vous, comme le maire d'arrondissement, comme le préfet de police, une disposition de dire, bah, peut-être dans ce cas, bien. Eh bien, si les règlements ne met pas en principe, on ne peut rien faire. Le maire de Paris lui-même ne peut rien faire.
Qui leur en voudra dans ce cas? Personne.
Je peux vous dire que je suis saisi sans arrêt de problèmes de ce genre. Bien, sans arrêt.
D'accord.
Donc le principe. Très bien, j'écoute. Je vous réponds simplement à notre question.
Alors, ce point-là, par exemple, un autre point, c'est la définition de ce qu'est une terrasse. Dans le règlement actuel, et donc sous la pression, c'est très stipulé, il est dit qu'une terrasse est une emprise qui est attribuée donc, à un commerçant pour y installer des tables, des chaises et y servir sa clientèle. C'est parfait. Ça, c'est bien. Dans le nouveau règlement, dans le projet, nous ne voyons plus rien. Ce qui veut dire que le commerçant pourrait très bien utiliser cette emprise, comme disait quelqu'un, pour garer sa voiture. Et ça c'est un danger très hypothétique, mais le vrai danger, celui que je crains, mais que je constate et qu'on n'arrive pas à régler, c'est que les terrasses sont utilisées par des consommateurs de verre à la main qui s'agglutinent sur les trottoirs, et ce phénomène prend des proportions absolument incroyables, et si vous n'êtes pas précis là-dessus, eh bien, on continuera à alimenter ce phénomène.
Voilà. Alors, monsieur, je vous dirai quelque chose. Depuis que la loi est appliquée sur le maître d'interdire le fumier à l'intérieur, les gens sortent fumés.
Excusez-moi.
Ils sortent fumés. Ça, c'est pas nous qui l'avons décidé. Et je trouve que cette loi est plutôt bonne en soi-même, hein, pour la sécurité. Bien. Quand des gens sont debout sur la voie publique pour fumer, il n'y a pas le droit de terrasse. Il n'y a pas de terrasse.
Si, ils ont un
droit non, de non, 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 monsieur, excusez-nous, excusez-moi, je signe les droits de terrasse tout le temps.
Excusez-moi. Le bar, je peux vous dire, voilà le bar, c'est l'autorisation de terrasse, et sur cette autorisation de terrasse de 80 cm, tous les soirs, ils occupent tout le trottoir.
Ben écoutez, moi je vais vous dire un truc,
donne-le.
C'est qu'il y a plein d'endroits où les gens sont debout en train de fumer qui ne correspondent à rien, qui ne soit facturé par la ville. Alors si vous me dites que c'est une terrasse, moi je vais la facturer immédiatement. Mais, parce que c'est comme cela que ça se passe. En tout cas, je peux vous dire que c'est pour ça que je ne comprends pas, je n'ai pas très bien compris dans les écrits que nous avons passés de Vivre Paris de M. Jacquinot, ces espèces de terrasses, nous facturons, si j'ose dire, nous considérons qu'il y a une terrasse quand il y a des tables et des chaises. Voilà. Quand il n'y a pas de table et de chaises, il n'y a pas de droit de terrasse.
Voilà. Et il est affiché sur la
je crois qu'on se comprend pas. Madame Quatsola, si je peux me permettre. Oui, je crois qu'on se comprend pas bien. Il faut distinguer d'abord la situation aujourd'hui, la situation dans le règlement tel que vous le préparez, enfin le projet qu'on a pour l'instant, et puis il faut évidemment distinguer entre ce qui est autorisé et ce qui est du débordement. Ça fait beaucoup de cas différents. Dans ce qui est autorisé aujourd'hui, c'est vrai ce que dit Gérard, dans la définition, il est mentionné les tables et les chaises. Dans le projet de règlement, il n'est plus mentionné les tables et les chaises. C'est une entrée.
Si on peut le mettre, ou alors on le met.
D'accord, le plan est différent et ça n'apparaît pas dans la continuité. C'est bien, mais si ça fait la confusion,
on peut le remettre.
Si vous nous dites ça, déjà ça nous rassure. C'est déjà un point.
Deuxièmement,
il y a la pratique qui se passe, c'est-à-dire que j'ai un cas en bas de chez moi, ça s'appelle le High Out, donc c'est un peu des Lombards, où très récemment, ils ont demandé une autorisation de terrasse qui fait effectivement, c'est pareil, 80 cm sur 3 mètres ou 1,50 m, je ne sais pas quoi, sur 3 mètres. Ils ne mettent aucun mobilier. Donc, si on interprète le règlement actuel et si je comprends ce qui sera dans le règlement futur, s'ils ne mettent aucun mobilier, on devrait dire, donc ce n'est pas une terrasse, donc c'est pas, vous voyez, c'est pas autorisé. Parce que qu'est-ce qui se passe? Sur cet espace-là, ils ne sont pas dans le cadre d'un débordement parce qu'ils ont mis une lisière, si vous voulez, avec une bande de tissu, vous savez, sur des plots, pour mesurer l'espace auquel ils ont droit. Et ça se fait en Angleterre, ça. Hein, et les gens sont debout à l'intérieur de cette lisière avec des verres à la main. Sauf que quand vous avez des gens assis sur des tables, la densité de personnes au mètre carré est très inférieure. Et là, vous pouvez avoir 50 personnes qui tiennent sur cet espace-là. Comme elles sont très serrées, elles parlent très très fort. Et en termes de nuisance pour les riverains, ça n'a rien à voir avec la nuisance d'une terrasse. Et après, il y a encore l'autre cas de figure, qui est celui du débordement, où effectivement les gens sont, que ça soit terrasse avec mobilier, pas multiplié, sont autour, voilà, et là-dessus, je pense que dans les, il y a la question des sanctions, mais il y a aussi la question des moyens de contrôle, et je crois qu'on manque d'inspecteurs de nuit pour venir dire, attendez, vous n'avez pas de mobilier, et vous êtes largement de la limite.
Juste sur ce sujet des terrasses non occupées par du mobilier, les professionnels, vous avez constaté ça aussi?
Là, on est dans un cas de figure typique où lorsqu'on laisse faire, finalement, parce que finalement, on a laissé faire, parce que les terrasses, avant l'interdiction de fumer, c'était quelque chose où finalement, tout le monde s'en satisfaisait, parce que les gens sortaient un peu des lignes, sortaient de mauvais niveaux, de façon saisonnière, et c'était pas l'enjeu que c'était pas. Et donc, c'est vrai que certains établissements, exactement ce que Madame de l'Urbanisme disait, parce qu'il y a des polarités à Paris, parce qu'il y a des secteurs où il existe une densité extraordinaire de publics touristes, qui sont une plus-value formidable hein, pour la capitale, pour les riverains eux-mêmes, en termes d'enjeux commerciaux, ce sont des emplois. Donc, finalement, on a un peu laissé faire. Et c'est vrai que moi, par contre, sur le principe de charge, j'y suis très attaché. Parce que c'est vrai qu'avec les riverains, on est un peu dans l'inquiétude. Et c'est le même problème sur les questions de nuit. Ils ont très peur des chartes. Parce que finalement, ils ont peur que la charte se substitue à la loi. Ou que tout au moins, elle permette à la loi de disposer de brèches. Or, depuis tout à l'heure, c'est à nouveau un dialogue de sourds. C'était le même avec M. Pénou. Ce que vous dit Mme Cohen comme cela, c'est qu'elle vous dit que la charte ne se substituera pas à la loi. Elle sera une alternative démocratique locale dans des cas particuliers, exceptionnels, où les riverains le demanderont peut-être, on fera des aménagements ponctuels, et que si ça ne marche pas, ben, la loi et le principe de loi s'appliquera par des colonnes. Mais ça ne se substituera jamais. Ce serait vraiment dommage dans l'avenir de s'en, comme vous le dites très justement, hein, de Cohen Solal, de l'exclure des possibilités, parce que nous, au SNEC, on a géré bien des situations avec des chartes, pas seulement à Paris, mais en région. Et que si demain, grâce à ces nouveaux aménagements de la loi et au fait de re-rationaliser finalement le fonctionnement, eh bien, tout le monde rentre un peu dans les clous, ben, on aura vraiment besoin de ces chartes pour, dans certains secteurs, se fondant sur le volontariat, la responsabilisation, on puisse y travailler. Et puis souvent, les chartes, vous savez, c'est du donnant-donnant. C'est-à-dire qu'on demande finalement aux commerçants s'il bénéficie d'une adaptation un peu particulière. On lui demande bien des compensations, souvent des traits participatifs à la sécurisation, à l'embellissement, à l'esthétisme, pour répondre à ce que les riverains, finalement, lui concèdent. Donc les chartes, c'est formidable, je pense que c'est un formidable...
On réfléchit, c'est ça.
Oui,
c'est pas une obligation, la charte, c'est pas une possibilité. Il y a monsieur qui voulait dire un mot, puis ensuite on continue.
Oui, monsieur Zemoudin, de l'association des commerçants et riverains de la rue Titane, dans le deuxième arrondissement, dans le quartier Montorgueil, qui est une zone dite sensible, où les problèmes ont été stigmatisés entre les riverains et les commerçants, où les associations de commerçants et les associations de riverains se sont longuement débattues et parfois avec virulence. Et moi, je propose que je voulais juste vous proposer à tous un peu plus de passerelles avec les associations de riverains. Et je pense qu'effectivement, cette charte qui n'a pas réussi à aboutir dans le quartier Montorgueil puisse aboutir, parce que l'intérêt de tous, c'est de trouver des solutions pour l'intérêt commun et l'intérêt de la ville. Donc je voulais vous proposer des idées dans ces chartes d'un médiateur, donc de plusieurs médiateurs, où les représentants de riverains, les représentants de commerçants, les représentants des services publics, préfecture et mairie, pourraient faire des tournées de nuit, des rondes de nuit, pour les problèmes de nuisance sonore, pour les problèmes d'étalement de terrasse, et ce qui permettrait déjà de créer des passerelles. Parce que ce qui pose vraiment problème en ce moment autour de ce débat, c'est la stigmatisation entre les associations de commerçants et les associations de riverains qui ne peuvent plus discuter entre eux. Vous voyez, dès qu'on a une réunion, ça part avec des insultes, ça part avec des mots qui sont plus hauts que leurs pensées, autant pour les riverains, autant que pour les commerçants. Donc j'aimerais qu'on apaise un tout petit peu
les débats par ces passerelles et proposer dans ces chartes un rôle réel de médiation qui n'apparaît pas non plus dans le règlement. Donc ça, c'est une première idée. Et une seconde idée qui pourrait paraître un peu farfelue à l'arrivée de l'hiver, je pense que les commerçants et les riverains ont aussi un rôle social à jouer dans l'aide aux plus démunis. Et là, Mme Molina ne pourra pas nous dire le contraire. Il serait intéressant dans ces chartes que les commerçants qui veulent jouer le jeu, qui veulent rentrer en contact avec les riverains, puissent participer à l'action sociale, puissent participer par exemple à un repas donné chaque soir. Ça c'est rien, pour un restaurateur c'est rien, un repas donné à un sans-abri. Et là on peut faire des passerelles avec les riverains. Votre réseau s'appelle Vivre Ensemble. On oublie souvent ceux qui sont dans la rue, dont on s'occupe souvent en commerçant la nuit, et on oublie souvent la sécurité des établissements. Voilà, c'est des petites idées que je voulais vous annoncer aujourd'hui, peut-être travailler dans ce sens. Et petite dernière question, j'aurais aimé savoir, pour ce qui est des terrains chauffés à gaz, savoir si dans la possibilité du remplacement à l'électrique, je ne sais pas si c'est... Il y a un moratoire, certes. Est-ce qu'il y aurait des aides à des prêts à taux zéro pour les commerçants? Parce que tous les commerçants ne sont pas des nantis et tous les commerçants ne sont pas pleins les poches. Il a fallu construire des fumoirs pour beaucoup de commerces. Ça a coûté énormément d'argent. Ça a permis à beaucoup de riverains de dormir plus tranquillement. Donc ça, c'est des actions que certains commerçants responsables, habitants au sud de leur commerce, ont réalisées. Donc je veux aussi vous montrer qu'il y a des commerçants dont je fais partie qui pensent aussi à leurs riverains puisqu'ils sont aussi habitants de leur quartier.
Merci M. Denda. Je voulais juste reprendre ce que vous avez, votre première proposition de médiation. Je trouve que c'est intéressant. Je vous remercie beaucoup de l'avoir proposé. C'est vrai que vous êtes dans un quartier où la médiation semble vraiment indispensable. Franchement, je ne vois pas comment on peut s'en sortir sans ça. Moi, je suis d'accord. Effectivement, je répète ce que vous disiez, monsieur, tout à l'heure. Une charte locale ne peut que rentrer dans le cadre, hein, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de changer les choses. C'est-à-dire, dans ce cas-là, par exemple à Montorgueil, ou par exemple du Trésor, ou je ne sais quoi, il y a un climat spécial, il y a des considérations spéciales, et nous voyons les choses comme ça ensemble. C'est tout. Il ne s'agit pas de changer la loi, en aucun cas de changer la loi. Il s'agit juste de préciser certains endroits, des façons de vivre ensemble un peu différentes.
Sur le chauffage, est-ce que vous pouvez continuer à préciser qu'est-ce que vous entendez uniquement ça supprimer le gaz et autoriser l'électrique, ou est-ce qu'il y a un moment, pardonnez-moi, est-ce qu'il y a un moment où vous comptez interdire l'électrique aussi?
Alors pour l'instant, ce qui est écrit dans notre projet de règlement, c'est qu'on demande que le gaz disparaisse progressivement.
Oui.
D'accord. Nous n'avons pas, pour l'instant dans le projet de règlement, interdit le chauffage à l'extérieur qui soit électrique. Nous attendons de voir ce que les directives européennes vont faire. Je sais qu'il y a des villes comme Berlin ou Stockholm qui l'ont interdit complètement. Nous n'avons pas l'intention de le faire pour l'instant à Paris dans le projet.
Voilà. Oui, c'est juste, si je me mets à la place des commerçants, s'ils investissent pour passer du gaz à l'électrique et que 2 ans après on leur interdit, c'est juste ça que... Mais bon...
Vous pensez qu'il faut bien dire tout de suite que tout est interdit?
Je ne sais pas, moi, j'ai pas l'intention. Bien évidemment, moi je suis partisan de l'interdiction.
Mais c'est toujours en train de répondre. Encore plus, quoi.
Non, mais pardonnez-moi. La réponse est dans la question, hein. Non. Là, non. Mais l'enjeu, ce serait une violence terrible. Donc, on va faire passer l'électricité et ensuite, éventuellement, avoir un moratoire sur 2-3 ans.
Mais la réponse est déjà dans la. La réponse a déjà été donnée par Mme Quetzalal, puisqu'il y a un moratoire pour la suppression du chauffage au gaz. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, il y aura toujours moratoire. Alors, de grâce, n'allons pas tout de suite à l'excès.
Le moratoire, c'est quoi? C'est 2 ans?
Nous sommes en train d'en discuter.
Juste une petite chose pour éclaircir justement le règlement qui a été reformulé. Il y a 2-3 petites choses qu'on aimerait vraiment voir de manière explicite. Notamment, il y a un paragraphe sur les prolongements intermittents qui a été retiré, qui disait que les prolongements intermittents étaient interdits. Alors maintenant, il y a quelque chose qui dit on autorise pour la surface qui est devant, en fait, la vitrine, devant le magasin. On aimerait simplement, Madame Borne, si c'était possible... Les prolongements intermittents, c'est lorsqu'un commerçant, en fait, utilise la surface qui est devant les commerçants avoisinants, en fait. C'est-à-dire que lorsque une pharmacie ferme, par exemple, eh bien, ça donne la possibilité à un cafetier qui a une terrasse, s'il y a une pharmacie à côté, lorsque la pharmacie est fermée... Attendez, on ne m'écoute pas.
Oui, mais attendez, excusez-moi, je vous écoute.
Donc il y a un article.
Je veux dire, je vois pas, vous avez vu ça.
Attendez, je peux terminer ma phrase. Donc il existait.
Il existait.
Oui, c'est les débordements latéraux. Il existait un article, enfin il existe dans la réglementation actuelle un article où il marquait explicitement que ce qui est appelé prolongement intermittent, et je peux revenir dessus pour vous dire ce que c'est, un prolongement, un débordement, est interdit. Actuellement dans le projet, je pense que l'esprit est le même, c'est de dire qu'on autorise grosso modo que pour une surface qui est devant le magasin. Ce qu'on aimerait, ce qui est une simple demande, mais c'est rien puisqu'on est tous dans le même état d'esprit, c'est qu'on dise que les débordements sont interdits. Ça soit marqué explicitement.
C'est exactement le même sujet que sur quand on dit il faut des panneaux rigides, ça veut dire qu'à contrario il faut pas des images souples. Là, on a mis que l'implantation se fait au droit du commerce.
Exactement,
c'est par définition. Ça veut dire que ça ne s'étend pas au-delà. Mais si vous préférez qu'on dise que ça se fait au droit du commerce et que ça ne s'étend pas au-delà,
on est prêt.
Même chose pour les.
Attendez, je finis, monsieur. Donc là, c'est juste une
demande. Il est évident que les débordements sont interdits. Voilà, c'est au droit du commerce. Ça va. Personne. Non, mais attendez. Quand même pas, nous, je veux dire. C'est clair, c'est toujours été comme ça. Les autorisations, ça s'appelle une autorisation. On demande au commerçant d'afficher les dimensions de son autorisation. D'accord ? L'autorisation ne sera jamais donnée autrement qu'au droit du commerce, à moins qu'on ait quelque chose d'extraordinaire. Bien, c'est au droit du commerce, basta.
Oui, okay. Mais si c'est
marqué, est affiché en vitrine. Si,
non, il ne l'affiche pas.
C'est
obligatoire, mais ils ne le font pas. Donc, si c'était marqué clairement qu'ils n'ont pas le droit de déborder, peut-être qu'en lisant le règlement, ils se diront
bah, si je n'ai pas le droit de déborder. Vous n'avez pas le droit de tuer votre grand-mère, hein, mais c'est dans la loi. Et on ne lit pas tous les jours. Simplement, je dis simplement que. Alors, je rigole, hein.
Ils sont bien présents, mais quels grands-parents sont morts
Je dis simplement que on demande, et c'est obligatoire, M. Tacquino, il est obligatoire, ça ce sera répréhensible si ce n'est pas fait, d'afficher son autorisation en vitrine.
On a descendu la rue Soufflot ensemble, il y en a qu'un qui est failli, hein, le seul quartier qui fait, on a descendu la rue Soufflot ensemble.
D'accord, mais attendez, c'est pas l'exemple, hein, l'air du
tout. Alors, justement, en termes de transparence, on a fait des demandes. On a fait des demandes justement parce qu'on est sur la transparence, justement. Mais donc, si vous pouviez réfléchir à cela, éventuellement mettre explicitement, ça nous rassurait, vous voyez, ça permet de.
Si, il y a
ça, il y a des petites choses comme ça. Attendez, et je finis. Sur les autorisations, hein. Nous avons descendu ensemble à Ressoufflot, je ne vais pas dire main dans la main, mais ensemble avec Michael Vérité, on a regardé, il n'y a que le comptoir du Panthéon qui l'affiche. Hein. Donc les autres ne le font pas. Donc nous, ce qu'on demande, et moi ça m'arrive d'aller demander à un commerçant, en fait, est-ce que vous pourriez le faire? Alors parfois, il le réduit, et donc ça fait
un. Interdit.
Oui, c'est interdit. Mais nous, on n'a pas de pouvoir. On n'a pas de pouvoir sur le sujet, et le commissaire a d'autres choses à faire, ce qu'on comprend bien. Mais. Ce qu'on voudrait, nous, c'est appuyer, mettre l'accent sur la question de la transparence, justement. Et si nous, riverains, on ne peut pas contrôler les choses ou savoir ce qui se passe en regardant la vitrine, parce que manifestement, le commerçant ne met pas ça, on aimerait pouvoir le savoir autrement. Et pour ça, il y a deux manières. Ce qu'on aimerait, mais c'est une demande et que j'avais fait déjà en décembre dernier. Et je pense que ça ne coûterait rien. La première, c'est que dès qu'une demande est faite, et il y a deux mois, la mairie nous répond, eh bien qu'on puisse le savoir en allant à la mairie, en consultant un cahier, comme c'est le cas pour le permis de construire, où là, actuellement, lorsqu'une demande de permis de construire est faite, eh bien c'est affiché en mairie. S'il n'y a pas suffisamment de panneaux d'affichage, qui est ce qu'on m'a dit à la direction de l'urbanisme, qu'on puisse le consulter déjà dans un cahier, dans un registre. Ça, c'est la première chose. Ça ne coûterait rien, ça apporterait de la transparence. Mais dans quel but? C'est comme pour le permis de construire, c'est normal si.
On voit dans la vie, c'est
fini. Voilà, on dit dans le. Mais c'est quelque chose qui n'est pas normal, c'est l'espace public, ça appartient à tout le monde. Si quelqu'un veut le privatiser, en quelque sorte, même de manière provisoire, ça regarde tout le monde. Et c'est normal qu'on puisse être informé, ne serait-ce que déjà parce qu'il y a des défaillances au niveau des affichages. Donc nous, déjà, ce qu'on voudrait, c'est ça. Et puis pour continuer sur la défaillance des affichages, ce qu'on voudrait, c'est de pouvoir plus facilement. Avoir connaissance des autorisations qui ont été données. Alors, idéalement, on pourrait imaginer que même ça puisse être disponible sur Internet. Alors, on ne va pas aller jusque-là, peut-être pour l'instant, mais est-ce qu'on peut y penser? Est-ce que c'est vrai que pour l'instant, c'est difficile d'obtenir cette information. Donc, on aimerait que dès la demande d'autorisation, on puisse la consulter comme un permis de construire, au moins dans un registre, il n'y a pas la place sur les panneaux. Hein. Ça, je pense que ça ne coûterait rien. Et nous, c'est tout ce qu'on demande, de la transparence. Voilà, on vous le demande. Donc dès que la demande est faite, que ça soit consultable en mairie d'arrondissement, c'est pas un énorme. c'est que de la transparence. Et on l'a demandé en décembre dernier, c'est pas quelque chose d'incohérent en fait de demander simplement qu'on ait connaissance dès la demande. Hein, c'est pas quelque chose d'incohérent.
Juste un petit commentaire un peu philosophique à propos du règlement. Le règlement doit se voir d'une manière dynamique, c'est-à-dire on ne peut pas dire oui, ça c'est précisé ou ça n'a pas besoin de l'être. Ce qui est important, c'est de voir comment il varie, comment les gens s'y réfèrent. Et quand on voit par exemple une contrainte qui existait dans le règlement précédent, qui n'est plus mentionnée dans le suivant, là on dit tiens, il y a du relâchement. Et c'est le cas, par exemple, c'est le cas
pour les prolongements, les débordements,
les débordements maintenant. Et c'est le cas aussi pour les chevalets. Les chevalets sont explicitement interdits dans le règlement actuel. Dans le projet du nouveau règlement,
ils sont autorisés.
Certes, on ne dit pas qu'ils sont autorisés, mais on ne dit plus qu'ils sont interdits. Et si vous regardez ça d'une manière dynamique, et croyez-moi, les commerçants sont très attentifs, bah, ils se disent, ça y est, de toute façon, maintenant, j'ai le droit de le faire. Voilà. Donc, dans la rédaction, je crois que c'est un détail qui a son importance, on sera très attentif au delta, si vous voulez, delta de ce qu'il y a par rapport à ce qu'il y avait auparavant. Parce que c'est ça que les gens ont fait.
D'accord.
Si vous pouvez juste répondre.
Les chevalets sont interdits.
Ah non, pas dans l'emprise de terrasse. Maintenant, c'est autorisé pour un chevalet, en fait. C'est autorisé pour un chevalet, alors ça ne l'était pas.
C'est autorisé dans l'emprise de terrasse, et en plus, c'est un peu contradictoire, parce qu'un chevalet, pour qu'il serve à quelque chose, il faut bien qu'il soit à l'extérieur.
Ah non, pas du tout. Un chevalet était permis sur l'emprise de terrasse, c'est-à-dire
qu'il est voilà. Alors qu'il n'était pas auparavant, en fait. Avant, c'était, enfin, actuellement, c'était pas autorisé. C'est interdit actuellement.
Il y a le droit de terrasse.
Non, attendez.
Actuellement, c'est interdit. Actuellement, c'est interdit en dehors de l'emprise, et au sein de l'emprise, les gens peuvent en mettre 4, 5, 12.
Voilà.
Et maintenant, ce qui est écrit, c'est interdit évidemment toujours en dehors de l'emprise, puisque ça ne leur appartient pas, et au sein de l'emprise, ils peuvent en mettre 1.
Donc c'est plus dur actuellement.
Si je m'en vais, je vais arrêter le chevalet.
Non, mais
pourquoi la présence d'un chevalet? Pourquoi la présence d'un chevalet dans l'emprise d'une terrasse ou gel?
Est-ce qu'on peut donner la parole à Éric de Châteauvieux qui représente les personnes handicapées ici pour qu'il vous dise ce que c'est qu'un chevalet? Une personne handicapée.
D'accord, pardon. Juste, j'ai été élu pour ça. Vous permettrez que je finisse de donner la parole aux gens qui sont à tour de rôle. Je voulais simplement préciser, comme l'a dit. Oui, d'accord, monsieur, il y a monsieur Solignac qui est inscrit, ensuite il n'y a pas de problème. Vous l'aurez. Ce que vraiment je voulais dire, c'est que le projet de règlement que nous proposons est plus rigoureux sur les chevalets qu'il ne l'était jusqu'à présent, puisqu'il était toujours interdit d'avoir un chevalet en dehors. Ben écoutez, excusez-moi, monsieur, je parle de règlement, je ne parle pas de la façon dont c'est appliqué. Évidemment qu'il y a des gens qui...
Il y a des amendes
ou pas ? Bon, vous permettez que je finisse, là ? Monsieur Sidov, soyez gentil, vous permettez que je finisse, d'accord. Hein, alors que vous disiez qu'il y a des chevalets, je le sais. Bien, voilà, et il y a des amendes de chevalets, oui. Mais il y en a passé sans doute. Bon, on ne va pas mettre un policier derrière chaque chevalet, c'est pas notre problème. Donc, ce qu'on propose là, pour que les choses soient claires, c'est qu'il est toujours interdit d'avoir des chevalets en dehors, mais sur l'emprise de la terrasse, on propose un seul chevalet. Voilà. Donc c'est plus rigoureux qu'avant. Si ça n'a pas été compris, je précise.
Il ne pourra donc pas y avoir d'autorisation explicite, comme c'est déjà le cas maintenant, pour un chevalet, c'est-à-dire une demande d'un commerçant qui fait une demande d'autorisation d'étalage et qui s'en servira de fait uniquement pour un ou plusieurs chevalets. Je vous signale, Madame Prensolal, que c'est interdit dans le règlement, mais il existe aujourd'hui des autorisations d'étalage qui mentionne un chevalet, alors que c'est interdit. J'espère qu'on aura le temps de revenir tout à l'heure, de toute façon on apprendra, sur les très nombreuses incohérences et invraisemblances de l'actuelle application du règlement.
Ah bah,
et des très nombreux passe-droits.
Y compris
des très nombreux passe-droits dont je sais que vous êtes intervenu personnellement pour plusieurs.
Excusez-moi, ça veut dire quoi ça?
C'est extrêmement clair, par exemple.
Non, c'est pas clair.
Si, ça va l'être pour un fleuriste qui donc vend des fleurs à proximité.
Un fleuriste,
du parc Monceau. Vous êtes intervenu personnellement pour donner une autorisation à un passe-droit, un complet étalage à Monceau Fleurs. Je tiens, de la part du maire de mon arrondissement, que vous êtes également intervenu pour une autorisation de contre-terrasse place de la Madeleine à un supermarché, le registre commercial du supermarché qui s'appelle Fauchon, alors que l'actuel règlement prévoit.
Et donc, Éric Château-Vieux pour Enguerrail. Donc, juste une précision, Enguerrail s'occupe de donner des conseils à la SNCF et à différents organismes dans les villes et les autorités organisatrices de transport, puisqu'on participe à l'élaboration des schémas d'accessibilité et de déplacement urbain. Donc, en fait, j'interviens en tant que membre du réseau de Paris, et je voulais simplement faire réfléchir sur l'aspect de l'utilisateur spécifique, des utilisateurs spécifiques que sont les usagers handicapés ou en situation de handicap, donc une mère avec une poussette ou des poussettes, ou des personnes qui vont se balader avec des valises, donc qui vont avoir une emprise sur le trottoir qui est supérieure à un client ou à un passager ordinaire. Donc j'ai deux, trois approches. Première question, j'entends parler d'un chiffre qui a été décidé par la mairie de Paris sur largeur de trottoir minimal d'1m60. Alors, je suis un peu embêté parce qu'il faut savoir qu'un fauteuil roulant fait déjà avec tout seul 90 cm. Donc, si deux fauteuils roulants vont être amenés à se croiser ou à cheminer côte à côte, ils ne pourront pas, effectivement, emprunter cette distance. Deuxièmement, quand une personne aveugle utilise sa canne blanche, qu'elle fait circuler de droite et de gauche autour d'elle, elle occupe un espace qui est supérieur à 1m60. Donc, il faut peut-être réfléchir à cette problématique de personnes qui vont être amenées à utiliser cet espace. Parce que ma démarche, c'est de vivre ensemble, donc qu'ensemble on puisse utiliser ces espaces qui sont communs et qui sont d'abord destinés aux piétons, il ne faut pas oublier. Donc moi, ce qui m'embête, c'est qu'il faut réfléchir en termes de cheminement. C'est ça qui est important. Parce qu'il faut donner la possibilité aux piétons d'utiliser ces espaces de manière la plus commode, la plus pratique. Or, une personne handicapée a des besoins spécifiques. D'abord, elle a des besoins de repérage. Et si elle mémorise un chemin, et qu'effectivement le chemin vient à changer, que la géographie du territoire vient à changer, parce qu'on va y mettre des chaises, des tables, des chevalets, et donc on va modifier l'espace, mais de façon non pérenne. La personne ne pourra plus se déplacer puisqu'elle va perdre ses repères, et qu'elle va à chaque fois être obligée soit de solliciter un autre passant, si elle entend pas chien, ou bien de réapprendre, ou bien redemander une personne de lui réapprendre le chemin. Donc déjà, il y a une réflexion à porter par rapport à ça. Deuxièmement, certaines terrasses qui sont en saillie par rapport à l'axe de circulation peuvent présenter des dangers. Soit le bord du plancher de la terrasse, qui toutefois a été surélevé, peut effectivement être dangereux pour la personne qui ne le verrait pas ou qui le verrait mal. Donc déjà, peut-être penser à signaler par un contraste le fait qu'il y ait une bord d'une terrasse. Deuxièmement, le fait qu'il y ait des bâches en plastique va modifier l'aspect sonore. Et il faut savoir qu'un aveugle, une personne aveugle, va prioritairement se repérer par rapport aux réfractions sonores qu'il a dans sa rue. Donc si effectivement il est habitué à entendre le son qui vient d'une terrasse fermée ou même d'une terrasse ouverte, et que soudainement, parce qu'il va y avoir une condition climatique, le son va être différent, là on va avoir des perturbations qui vont être difficiles à gérer. Donc ça, c'est des choses auxquelles on ne pense pas parce qu'on ne connaît pas ces problématiques. Ensuite, il faut savoir qu'il y a des objets urbains, des mobiliers urbains qui sont sur les trottoirs. Alors, on a les panneaux publicitaires de Jean-Claude Decaux, on a, parfois ils ont des plans, bon, ben, toutefois, il y a aussi les cabines téléphoniques qui ont cette particularité d'être montées sur un pylône et d'avoir une saillie très importante et qui n'est pas détectable par les camions. On a aussi les taureaux, les arbres, on ne peut pas enlever les arbres. Donc il y a aussi des démarches à réfléchir par rapport à ces cheminements. Et il me semble que cette distance, et uniquement se focaliser sur une distance minimale, nous paraît peut-être restrictif. Donc il faut peut-être faire des études de cas. Ensuite, il y a des problématiques quand on circule, bon, je connais bien la Montargueil, l'espace de circulation est au centre de la rue. Or de chaque côté, il y a du pavage, et au milieu, il y a un caniveau. Donc quand vous circulez avec une poussette, vous êtes en fauteuil roulant, comme ça peut arriver, vous ne pouvez pas circuler. Donc en plus, effectivement, de cet état du sol, il faut peut-être proposer un cheminement qui soit plat, le plus possible, si vous pouvez trouver des choses qui soient plates, et de trouver des moyens pour qu'on puisse détecter les passages piétonniers, les traversées, les chaussées. Donc si effectivement on n'est pas restrictif sur l'état d'occupation du domaine public par des choses qui vont se mettre sur la traversée des piétons, ou qui vont se mettre sur le cheminement normal, là on peut risquer des accidents. Qui est-ce qui est responsable? Est-ce que c'est le commerçant qui a empiété sur le domaine public? Est-ce que c'est la mairie de Paris? Est-ce qui est responsable? On ne pose pas ces problèmes en termes de responsabilité. Donc c'est un peu pour vous attirer ces attentions sur ces spécificités que je me permets de prendre la parole. Et effectivement, j'apprécie que les choses s'améliorent, que niveau esthétique on puisse se repérer. Il y a aussi des détails importants. Vous parlez de lumière. Les lumières qui sont utilisées par les commerçants ou les enseignes sont autant de repères pour les personnes malvoyantes et sont autant de points de protection simplement par le fait que la zone est éclairée. Or, dans certains quartiers, il y a des problèmes de cordées d'arbres qui ne sont pas suffisamment puissants, et les personnes sont bien contentes de pouvoir utiliser la lumière des commerçants pour pouvoir se repérer ou se déplacer en sécurité. Voilà.
Merci beaucoup, monsieur, de votre intervention, parce qu'elle elle met effectivement en valeur le fait que la ville doit être faite pour tous. Et donc, vous savez que nous sommes très sensibles au problème que vous avez évoqué, et qu'un plan de mise en accessibilité est en cours de finalisation. C'est une obligation. D'ailleurs, il sera présenté prochainement au Conseil de Paris, et ma collègue qui s'en occupe extrêmement ardemment, comme vous le savez.
Je me permets juste un rajout. Les installations des terrasses, donc les établissements sont des EFP, des établissements qui reçoivent du public, alors que ce soit des établissements de telle ou telle taille, il va falloir qu'ils réfléchissent aussi à mettre en accessibilité leurs terrasses. Et donc, s'ils font une accessibilité, c'est forcément des dispositifs qui vont eux aussi empiéter sur l'espace du trottoir. Donc, tout ça, c'est à réfléchir et à prendre en compte dans vos différents textes.
C'est prévu par la loi en termes d'accessibilité.
Absolument. Nous avons déjà commencé à discuter avec les représentants des professionnels, la Chambre de commerce et la Chambre des métiers, sur la mise en accessibilité d'un certain nombre d'établissements, enfin, l'obligation de mettre en accessibilité l'ensemble des établissements. Et donc, effectivement, des risques ou des éventuels d'occupation du domaine public sur des pentes à organiser, etc. D'autre part, la mise en accessibilité de l'ensemble des cafés à Paris pour que les toilettes soient accessibles, y compris à des gens fait roulants, pose des problèmes, vous imaginez la complexité, sur lesquels nous avons déjà commencé à discuter, aussi bien avec le représentant des professionnels, évidemment, qu'avec nos collègues qui s'occupent de ces problèmes-là. Donc, vous avez tout à fait raison de dire, et comme je sais que vous êtes extrêmement soucieux de faire en sorte que les choses se passent bien, il se peut qu'à des moments, les choses ne soient pas effectivement conçues comme assez visibles ou accessibles pour les personnes en situation de handicap. N'hésitez pas à nous faire savoir, parce que, évidemment, ce sont les personnes en situation de handicap qui savent le mieux là où elles peuvent l'avoir. Donc, nous sommes très sensibles à ce sujet-là, donc nous sommes tout à fait réceptifs aussi à vos interrogations, vos demandes, je sais que les professionnels le font aussi, hein, de changement quand c'est nécessaire. Oui, monsieur, vous pouvez dire quelque chose sur ce sujet-là.
Madame le maire, je veux juste rajouter, c'est que nous travaillons là-dessus depuis un certain temps avec la préfecture de police, la mairie de Paris, la chambre de commerce et les professionnels pour justement mettre l'accessibilité en place. Il y a des chantiers qui sont mis en route et bien sûr des transformations à faire, et il y a une loi qui va se mettre en place. Nous y travaillons. Nous n'attendons pas, nous ne sommes pas les derniers à mettre des choses en place, à se concerter, avec de nouvelles associations d'ailleurs autour de la table, et où nous avons déjà fait des réunions d'information professionnelle et, avec la Chambre de commerce, d'ailleurs la semaine dernière.
Oui, la semaine dernière avec Mme Dubarry. Mme Dubarry, voilà. La Chambre de commerce
pour
en parler.
Et moi, en tant que buraliste, j'en ai même fait pour les buralistes, plusieurs au sein de la Chambre de commerce, j'ai invité les buralistes.
Ça, c'est un gros chantier, monsieur. Vous savez, c'est un gros chantier que nous avons, que les professionnels ont, et nous sommes prêts à les accompagner pour les aider. Pourquoi ? S'il y avait avoir des dérogations, comment les toilettes publiques peuvent aussi venir de temps en temps pallier au fait que certains peuvent passer qui veut. Enfin bref, c'est un chantier que nous avons. Donc, nous sommes sensibles à cette problématique. Et c'est pour ça que je vous disais, restez vigilants, et si vous voyez des améliorations apportées ici et là, n'hésitez pas à nous faire savoir.
Oui, je suis tout à fait informé des progrès fantastiques que la mairie de Paris organise, et des réflexions qu'elle organise sur ce sujet, ô combien sensible pour les personnes atteintes, mais aussi pour tout le monde finalement.
Bien sûr.
Parce que c'est ça l'idée. Est-ce que mon propos était de dire simplement que dans mon règlement sur les cafés-terrasses, les terrasses et différents autres objets qui occupent l'espace public, de prendre ces préoccupations et ces spécificités des normes dans la définition de vos espaces de circulation.
Je précise simplement que le AMEL 60 est calculé à partir du mobilier urbain, c'est-à-dire que s'il y a un mobilier urbain dans l'espace compris pour la circulation des piétons, ce mobilier urbain réduit effectivement. Le AMEL 60 passe à partir du premier mobilier urbain sur le premier mobilier privé. Donc, et nous travaillons avec Elisabeth Borne, à la commission du mobilier urbain, avec des représentants des personnes en situation de handicap pour vérifier que tout le mobilier urbain que nous installons, c'est difficile hein, de avoir des contraintes, sont naturellement des mobiliers qui conviennent, qui gênent le moins possible les personnes en situation de handicap.
Si vous pouvez aller jusqu'à 1,80 m, ça serait extraordinaire. Là, vraiment, ça serait vraiment, je pense, c'est 20 cm, c'est peut-être pas grand-chose, mais quand on a un fauteuil blanc, c'est vraiment.
Je comprends tout à fait, monsieur, le 1,60 m, comme je vous l'ai dit, c'est le minimum. Le 1,80 m était réductible à 1,40 m. Hein, donc c'était
1,40 m.
Voilà, donc c'est. Oui, d'accord, mais enfin, appréciez quand même que nous ayons bloqué les choses à 1,60 m.
Bien. S'il est possible d'aller plus loin, d'aller plus large, on fait plus large, bien sûr. Mais là où on peut, on fait plus large. Il y avait M. Jacquino qui demandait de manière extrêmement pressante.
Merci beaucoup.
Et ensuite, M. Jacques.
Oui. Alors, et juste après, j'aimerais que sur cette demande de transparence, dès la demande, on puisse avoir une réponse, puisqu'on n'était pas allé jusque-là. Mais juste...
On enregistre votre monde,
d'accord,
on peut parler de tout.
Voilà. Bon, mais juste la question des chevalets, je viens de relire le règlement. Hein. Titre 2, chapitre 1, étalage et dépôt de matériel. Hein. Article 11, page 7. Toutefois, sont interdits les chevalets et tout panneau indicatif. Et il n'est pas marqué que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur d'une autorisation qui a été donnée. Donc ça, pour l'instant, c'est zéro chevalet dans la réglementation.
C'est... Non, c'est
non, mais attendez, quand on a parlé, quand on a parlé des chevalets à l'instant, j'ai entendu à ma gauche, mais moi j'en mets 100 ou 200 si je veux dans mon emprise. Et d'autres personnes ici que je ne citerai pas ont dit justement c'est une amélioration, on ne le passe qu'à 1. Mais non, pour l'instant, dans la
réglementation. Je pense que ce que je vous propose, c'est que les deux règlements ne sont pas rédigés sur le même plan. On a changé le plan pour essayer d'être plus clair. Alors ensuite. Si oralement on s'échange des articles, je pense qu'on va avoir du mal. Donc, alors...
Mais c'est interdit, c'est marqué dans le règlement. C'est marqué explicitement interdit. Alors ensuite on nous dit c'est autorisé. Mais non, c'est interdit, c'est marqué dans le règlement.
Ce que je vous propose, c'est qu'on va vous faire un avant-après par thème, honnêtement, je pense qu'on peut s'échanger des morceaux d'articles qui aujourd'hui ne sont pas.
Alors, juste, c'est pas rangé pareil, sauf que je ne regarde pas le nouveau, je regarde l'actuel, et l'actuel est marqué, c'est interdit. Bon, juste une chose, attendez, je
sais que vous avez parlé.
Oui, alors justement, dans l'actuel, attendez. Non, c'est important, parce que je voudrais pas qu'on se retrouve dans d'autres circonstances, alors que là, on est en train d'essayer de dialoguer sur le sujet. Donc, justement, on a des spécialistes qui sont parmi nous. Dans l'actuel, celui qui marche actuellement, hein, les contre-terrasses sont interdites au-delà de 5 mètres. C'est marqué. Je pense que personne ne me contredira sur le sujet. C'est interdit au-delà de 5 mètres. Vous savez, nous sommes passés en 100 places de la Sorbonne. Hein. Vous savez qu'ils prennent quasiment la moitié de l'espace. Hein. Eh bien, dans le projet que vous avez actuellement, on ne parle plus de l'interdiction au-delà de 5 mètres. On n'en parle plus. Donc ça veut dire, si ce n'est plus interdit, c'est autorisé. Hein? Donc ça veut dire que, pour l'instant, ce qui est impossible, place de la Sorbonne, mais qui est quand même fait, ça deviendra autorisé. Donc je voudrais savoir...
Comment vous raisonnez? Pourquoi c'est autorisé? C'est autorisé si la mairie décide d'autoriser. Non, mais c'est pas autorisé comme ça.
Pour l'instant, c'est interdit. Pour l'instant, il y a une règle générale. Et cette règle est supprimée.
Mais non, monsieur. Attendez une seconde. Ne raisonnez pas comme ça. C'est interdit.
Actuellement, c'est interdit.
Et ça sera plus interdit. Si le café dont vous parlez demande l'autorisation d'aller au TAF, on peut lui dire non. On n'est pas obligé de lui dire oui, parce que dans le règlement, il est possible d'avoir.
Et vous pouvez dire oui maintenant.
Non.
Et maintenant, vous pouvez dire oui. Alors que jusqu'à présent, vous ne pouvez pas dire oui. Maintenant, vous pouvez dire oui. Ça nous dérange.
Attendez, vous croyez que je suis aussi faible? C'est une interdiction qui est faite à la ville de dire oui.
Mais donc, quelque chose.
C'est pour commerçant. Maintenant, ça va être interdit. La ville peut faire ce qu'elle veut.
Elle maintenant, alors, non. Vous l'avez dit, la ville peut faire ce qu'elle veut maintenant. Et bien voilà, on est au fond du sujet. Maintenant, vous avez dit ce que nous.
On va régresser sur le règlement. Ne régressons pas.
Mais pourquoi? Attendez, excusez-moi, pourquoi régresser?
Maintenant, la ville peut faire ce qu'elle veut.
Si on parle de
quelque chose qui est interdit et qu'on va à quelque chose qui n'est plus spécifié, on régresse.
Mais attendez, monsieur, ça dépend, c'est passé. Moi, j'ai pas du tout même chose du progrès. Je ne sais pas pourquoi autoriser des choses, ça devient le contraire du progrès. Je ne vois pas du tout en quoi. Je veux dire que si on donne à la ville des possibilités d'aménager l'espace public, pourquoi est-ce qu'on ne donnerait pas des possibilités d'aménager l'espace public aussi en occupation d'espace public raisonnable? On va écouter, je ne comprends absolument pas l'état d'esprit de dire. Parce qu'il y a une terrasse de café, c'est mal.
Parce qu'on ne contrôle pas, on ne contrôle pas déjà l'existant. On ne contrôle pas l'existant, on va en donner plus. Tous les maires le disent.
Ça veut dire que sur le fond, on est d'accord pour donner plus.
Mais non,
ça, je veux bien. Attendez, le règlement, il ne dit pas ça. Donc je redis qu'a priori, il se trouve qu'aujourd'hui, on a un règlement qui est rédigé de façon pas claire. C'est aussi pour ça qu'on doit être assez clair. Bah, écoutez, vous trouvez très clair, c'est formidable, et on a du mal à le mettre en œuvre. Donc si vous trouvez clair, nous on trouvait que c'était intéressant de remettre le plan. Dans le règlement, vous pouvez sortir des phrases qui sont
trouve qu'il y a des endroits où il est dit, par exemple, les chevalets sont interdits, mais si vous demandez un droit d'étalage et ça se trouve plus loin, vous avez droit d'avoir des chevalets. Bon, donc c'est pour ça que je vous dis qu'a priori, on peut s'échanger des morceaux de paragraphes en croyant qu'on est en train de faire un règlement plus laxiste. On n'est pas en train de faire un règlement plus laxiste. Simplement, il faut que le règlement actuel il y a très longtemps, qui a été adapté par des amendements qui ont été mis de façon pas toujours adaptée, est difficile à lire et de très très confusion. En tout cas, si on prend le cas des chevalets, par exemple, quand vous réconciliez les différents morceaux du règlement actuel et le nouveau règlement, donc simplement qu'on a remis en ordre, mais qu'on a une réglementation, donc on n'est pas plus laxiste.
Mais disons-le dans une phrase.
Ben, écoutez, non, mais autant je peux écrire correctement le règlement actuel, autant je ne peux pas faire le règlement ancien.
Et juste sur les 5 mètres, les 5 mètres sur les places, la limitation qui a été autorisée.
Jacques Guido, c'est moi qui donne la parole. Et donc, monsieur Chezé, président du Sénat, qui avait demandé la parole depuis un bout de temps. Merci. Et donc, je la lui prête.
Merci, madame le maire. Écoutez, je crois que l'avantage et l'intérêt de ce règlement, c'est effectivement, et vous l'avez vu, les professionnels, nous avons dit, nous sommes satisfaits de voir ce projet parce qu'il va clarifier un certain nombre de choses, y compris en matière de sanctions. Par conséquent, nous disons, nous, toute personne qui effectivement ne respecte pas le règlement, eh bien, il mérite d'être sanctionné, et nous, professionnels, nous ne trouverons rien à redire quant à cette sanction, car effectivement, un certain nombre de professionnels se conduisent mal, et du coup, jettent l'opprobre sur notre profession. La deuxième des choses, je voudrais quand même rappeler que nous sommes donc Paris est la principale destination touristique, nous l'avons dit. Je voudrais rappeler que les terrasses participent du cadre de vie, mais en participant au cadre de vie, elles participent aussi à l'économie de Paris, ne serait-ce que par le chiffre d'affaires que nous en dégageons, de par les emplois que nous créons au travers de l'activité de cette terrasse. Nous souhaitons qu'au travers de ce projet, nous puissions, vous puissiez, la mairie de Paris, et nous puissions arriver à un règlement qui permette à tous les professionnels de travailler et d'exploiter leurs affaires dans les meilleures conditions pour le client et pour les riverains. Maintenant, un dernier point, qui est un point qui vient d'être abordé à propos des chevalets. Attention, vous savez, les chevalets ne sont pas là uniquement comme ça pour faire beau. Les chevalets répondent à deux exigences. La première exigence, c'est une exigence réglementaire. Nous sommes obligés d'afficher nos prix et nos prestations. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît, monsieur. La deuxième, mais c'est une exigence tout simplement d'accueil, et je pense notamment aux étrangers. Un étranger peut et doit avoir le droit de savoir dans sa langue eh bien, ce que nous allons proposer et les prix que nous allons proposer. C'est tout simplement ça, un chevalet. Ce n'est pas simplement quelque chose, encore une fois, qui est là pour embêter le piéton, le riverain ou que sais-je encore.
C'est une obligation. Il y a quelque chose que je voulais vous demander, monsieur Chenet, à propos de l'affichage alors des autorisations, de l'autorisation de terrasse. Je voudrais qu'il soit clair avec les professionnels que cet affichage est obligatoire,
tout à fait,
visible et dans la dimension que nous leur avons envoyée. Je sais bien que on est d'accord ensemble. Je voudrais simplement que le message soit passé à l'ensemble des professionnels, qui sont adhérents à vos associations, à vos syndicats, pour que nous n'ayons. Enfin, d'ailleurs, quand on leur envoie cette autorisation, il est écrit cette autorisation doit être affichée de manière visible et dans la dimension qu'on leur envoie.
Je peux vous dire que de toute façon, à la fois sur ces aspects-là, vous pouvez compter sur nous, notre organisation professionnelle fera les rappels nécessaires auprès de nos adhérents, et y compris quand je dis fera les rappels, nous en ferons diffusion à la fois sur notre site et lors de réunions que nous organiserons avec nos adhérents.
Merci beaucoup. Monsieur Jeune, vous voulez rajouter quelque chose sur ce sujet ?
Oui, une chose, madame. En 2005, a été créée une commission que vous avez présidée sur la révision de la classification des voiries, hein, notamment en termes de fiscalité. On est passé pour, en détail, de 7 voies à 5 voies, auxquelles nous avons participé. Ça a été sur la demande du Synorca à l'épaule que soit rendu obligatoire l'affichage visible à l'extérieur des autorisations d'emprise sur la voie publique. Pourquoi à l'époque ? Parce qu'on avait des problèmes, notamment de paracommercialisme. Alors qu'on ne vienne pas aujourd'hui nous dire ou nous faire procès de quoi que ce soit, c'est nous-mêmes, commerçants responsables, qui avons demandé cette exigence, qui a posé des problèmes, d'ailleurs, je m'en souviens, sans aucune critique, aux services concernés, qui ont mis 2 ans pour nous procurer ces fameuses affiches obligatoires. Voilà.
Oui, merci de le rappeler, c'est exact de ce que vous dites. Oui,
juste. Je peux juste rajouter une chose, parce que tout à l'heure, le monsieur qui est donc du quartier de Montorgueil a parlé de médiateur. Je crois que c'est quelque chose qui mérite d'être étudié et approfondi, que le rôle de cette personne pour effectivement éviter que des conflits s'enveniment et qu'on puisse traiter, sur le terrain même quelque chose et faire avancer les débats avant que, encore une fois, ça ne prenne des disproportions qui n'ont pas lieu d'être.
Merci de cette proposition. Donc, j'ai déjà remercié M. Donat, mais je vous remercie aussi, parce que je pense que nous avons tous besoin que les choses se passent bien. Il peut y avoir des conflits, naturellement. Il peut y avoir des conflits. Il faut que ces conflits arrivent à des aboutissements. Et pour arriver à des aboutissements, souvent, on a besoin de médiateurs. C'est partout un peu pareil. Et donc, merci en tout cas de l'implication des professionnels, parce qu'on a besoin de... Sinon, effectivement, personne ne peut parler de manière forte. Alors, attendez, juste un moment. Il est... 12h30, ça fait 2 heures que nous sommes en réunion, donc je vais mettre fin à cette réunion dans quelques minutes. Je voudrais que ceux qui n'ont pas parlé et qui voudraient parler puissent le faire, parce que certains sont exprimés plus que d'autres, mais c'est normal, il n'y a pas de problème, mais ceux qui n'ont pas parlé du tout, peut-être non. Donc, je donne la parole aux 2 ou 3 personnes qui veulent encore la parole, donc messieurs 2 et madame Bourbina, et ensuite on clôturera la réunion.
Un mot sur les chevalets, il est illusoire de penser qu'ils soient autorisés ou pas, qu'un commerçant, un quartier, en tout cas, disposera, vu l'encombrement d'un chevalet, qu'il le disposera dans les limites de sa terrasse. Pourquoi voulez-vous qu'alors aujourd'hui où c'est interdit, il le met en dehors des limites de sa terrasse, ça prend la place d'une ou deux tables, donc c'est illusoire de penser qu'il respectera ça. Puisqu'on est pressé, madame le maire.
On
n'est
pas pressé, ça fait 2 heures.
Non, mais bon. Moi, je suis à votre disposition encore un moment. Hein.
Un mot sur
ce projet de règlement, vous avez déjà certainement des échos qui sont donnés par la presse et par les réunions, que ce soit des SICA ou conseillers de quartier. Il est rejeté par l'ensemble de la population. Qui a été en tout cas pour l'instant consulté. Ce soir, à ma connaissance, c'est la première réunion dans le troisième organisée par un maire de gauche qui s'est exprimé dans la presse et qui a dit lui-même, un maire de gauche, je veux dire un maire de PS de Paris, qui s'est exprimé lui-même sur les réserves. Alors, c'est très bien, les commerçants et les riverains. Manifestement, sur un certain nombre de sujets essentiels, on n'est pas sur la même ligne. Ce projet de règlement entend sanctuariser en quelque sorte l'existence, c'est-à-dire que déjà pour l'instant, dans la pratique, depuis plusieurs décennies, dans l'application de l'actuel règlement, c'est le mètre 60 déjà, dans bien des cas. Quitte à bafouer et la règle du tiers et la règle de la moitié. C'est, une quantité d'autorisations sont données avec malheureusement l'avis favorable du préfet de police, parce qu'il ne pourrait pas en être autrement. Vous semblez découvrir la chose, madame.
C'est
pas
moi que vous parlez.
Alors, excusez-moi.
Je suis responsable de cette...
Alors, une quantité d'autorisations ont été accordées sur l'ensemble de Paris, depuis plusieurs décennies, en violation du règlement. C'est-à-dire que on prend en considération la largeur du trottoir, on ne considère pas du tout les réserves de largeur utile, etc., et on accorde toute la largeur sauf 1m60.
Alors, monsieur,
vous avez deux, trois exemples, que vous allez dire que je raconte n'importe quoi.
Ah oui, vous racontez vraiment n'importe quoi. Et donc, je vous conseille, si vous connaissez un cas pareil, de, naturellement, de faire
un cours.
Vous avez, excusez-moi.
Mais qu'est-ce que vous croyez? J'étais encore lundi, madame, au tribunal.
Très bien, vous continuez, monsieur.
Pour faire enquête concernant des établissements de 50 cm, madame.
Très bien, monsieur. Écoutez, je vous conseille de continuer. Et comme ça, vous mettrez dans l'ordre tout seul. Je trouve... Dommage.
J'ai l'impression que vous ne connaissez pas la réalité administrative de...
Pas la même que vous, visiblement. Alors, ça fait juste 9 ans que je suis là et que j'essaye de prendre mon
ma fonction à cœur. Donc, je ne crois pas que vous puissiez continuer à essayer de cliver comme ça, de monter les uns contre les autres en expliquant que l'administration parisienne est vraiment nulle. Moi, je n'ai pas du tout cette impression-là, monsieur, et je cherche à trouver un consensus. Donc, si vous n'êtes pas d'accord pour arriver sur un consensus, vous avez tout à fait le droit. C'est la liberté, votre liberté de parvenir à un consensus. Moi, je pense qu'on peut le faire, vous voyez. Bien. Et donc, je pense qu'il est dommage qu'on trouve toujours des personnes pour continuer à creuser des fossés et à voter les uns les uns contre les autres.
Vous voulez... Ça ne marche pas avec nous.
D'accord, très bien. Je parle de vous personnellement, monsieur, c'est tout. Je parle pas de votre
personne. Ça ne marche plus, madame.
Les Parisiens sont en colère. Les Parisiens sont en colère, il faut le savoir, les Parisiens sont en colère. C'est marqué dans le journal d'hier, les Parisiens sont en colère. Les Parisiens sont en colère. C'est marqué là. Les bistrots, mais respectueux, c'est ça.
J'ai beaucoup insisté pour qu'on clarifie les textes pour qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation. Je vous l'ai dit, que c'était la condition pour que tout le monde s'y retrouve. Et une fois qu'on aura des textes bien clairs et précis, j'espère personnellement qu'on n'aura pas besoin de chartes. Alors, il y a un point qu'on n'a pas mentionné, j'en suis un peu surpris, ce sont les fameuses terrasses de 50 cm. Parce qu'elles sont aujourd'hui...
Où elles sont? Est-ce que c'est écrit qu'il y a une terrasse de 50 cm dans le règlement?
Oui,
dans le
projet
de règlement.
Dans le projet de règlement.
Où est-ce qu'il est écrit dans le projet de règlement?
Il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite à 60 cm.
Pardon?
Il n'y a plus de limite à 60 cm.
Dans le projet?
Oui, il n'y a plus de largeur limite.
Voilà. Donc, il n'y a pas écrit qu'il y a des terrasses de 50
cm.
Non, mais ça peut être... Non, madame, est-ce que c'est une imprécision de rédaction? Ce que j'espère... maintenir au moins les 60, parce que vous savez...
Pourquoi? Je ne comprends pas. Quelle est votre position? Expliquez-moi vraiment, philosophiquement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quel est l'intérêt d'avoir mis 60 cm? Expliquez-moi, ça correspond à quoi?
Je ne sais pas, 60 cm, ça existe. Mais ce qu'on constate, c'est que quand vous autorisez une terrasse de cette dimension, les gens, naturellement, ne peuvent pas la respecter physiquement, parce qu'ils sont assis, ils ont les jambes qui débordent. Donc, c'est un garde-fou. C'est pour moi un gardon, le 60. On est satisfait avec ça, gardons-le. Gardons-le, mais ne laissons pas la porte ouverte à descendre au-dessous de 60. Ce que le nouveau texte permet. Et donc là, on est demandeur.
Le nouveau texte le permet à qui?
Il y a table, il y a des occupants de la table. Il y a des chaises. Oui, mais il y a des chaises, monsieur. Il y a des occupants. Et les occupants, ils sont sous la table.
Les occupants sont sous la table. Mais attendez, monsieur, pourquoi voulez-vous que d'ici, maintenant,
on va y aller ensemble,
en fin 2010,
vous allez voir, ça prend
on prévoit, excusez-moi, monsieur Jacquino, j'essaie de préciser cette réunion, je donne la parole à tout le monde, alors on
s'écoute, je parle, d'accord
monsieur. Oui, mais vous m'écoutez d'abord, et bien après, on donnera la parole à qui vous voulez, et y compris à vous. Bien. Donc, moi, ce que je dis simplement, c'est qu'il me semble absolument indispensable de marquer les 1m60 qui sont, je veux dire, sacro-saints, sur lesquels on ne reviendra pas. Bien. Après, les 60 cm correspondaient sans doute à quelque chose, il y a, parce que cette disposition est entrée dans les règlements, il y a, je crois, plus de 50 ans. Bien. Ça correspondait sûrement à la façon de vivre de nos grands-pères, je ne pense pas beaucoup ça, de nos aînés. Moi, je dis simplement qu'aujourd'hui, nous allons vers une adaptation des choses. Et que, s'il me semble que ce doit être sacro-saint, c'est de garder les 1m60 minimum de passage. Après, je dis simplement, il y a du matériel urbain qui arrive, par exemple les fameux skis qui empêchent les gens de stationner sur les trottoirs, ce que vous avez réclamé. Donc on a mis des quilles pour empêcher les gens de stationner sur les trottoirs. Ces quilles viennent rajouter, évidemment, et je comprends que pour les personnes en situation de handicap, ce soit des gènes, mais ce sont des gènes aussi quand on compte la 1m60, bien sûr. Donc nous avons été saisis, y compris de maires d'arrondissement qui sont en ordre par ailleurs, de demandes d'assouplissement, disons on est à 58, on n'est pas à 60, c'est dommage dans ce coin-là de ne pas avoir de lumière, c'est dommage dans ce coin-là de ne pas avoir de sécurité, c'est dommage dans ce coin-là de ne pas avoir de terrasse, parce que ce monsieur, il met des gens sur le trottoir sans confort, et ces gens parlent beaucoup plus parce qu'ils sont debout qu'ils ne parlent quand ils sont assis. Donc je me suis permis de mettre quelque chose qui mettrait un point d'interrogation à côté de 0,60 m. Voilà, c'est tout.
J'explique mon raisonnement, madame. C'est que si nous avons un trottoir de 2 mètres, si nous laissons 1,60 m, parfait, il reste 40 cm. Eh bien, dans la réalité, gens qui vont s'installer sur les 40 vont utiliser pratiquement tout le trottoir. Parce que ça n'est pas possible de s'asseoir sur 40 cm. Et donc, c'est en considération de cette impossibilité, je recommande, je crois que nous sommes tous d'accord, nous recommandons qu'il n'y ait pas d'autorisation accordée au-dessous d'une certaine largeur. Et le chiffre qui est pris en compte aujourd'hui, c'est 60. Ah, parfait, mais il a le mérite d'exister, et même pas de s'acheter gardons.
J'ai entendu la question. Merci. Jacques Hidot, vous aviez demandé la parole.
Oui, et je laisse.
Non, mais attendez,
d'accord. Je laisse par galanterie la mauvaise. Mais je la reprends après. Vous l'avez proposé à l'instant, alors je la garde et je la redonne, si vous le voulez bien, à ma voisine, et je laisserai la donner à ma voisine ensuite. Donc juste sur le point D, et juste, c'est une illustration, vous nous avez dit, je vous ai demandé pourquoi est-ce que les 5 mètres de contre-terrasse qui étaient interdits, ce n'est plus explicitement marqué que c'est interdit, vous nous avez dit, c'est pour avoir les coudées franches, la mairie pourra faire ce qu'elle souhaite. Très bien, et nous, si elle fait bien, tant mieux, mais on observe simplement que ce que vous nous avez dit, c'est que ça permet à la mairie d'avoir une plus grande marge de manœuvre. Très bien si c'est pour faire du bien, mais je le constate simplement. Premier point. Et puis, deuxième point, j'insiste vraiment parce que autant les maires de gauche que comme de droite qui ont pris la température, moi je ne représente pas les Parisiens, je n'ai pas cette présence-là, je représente les quelques centaines d'adhérents qu'on a, rien de plus. Mais les maires vous ont écrit en disant attention. Et pourquoi est-ce que les Parisiens sont en colère? Je vous l'ai montré, vous avez eu ce journal. Parce qu'il y a des gens qui sont dans la rue, qui prennent des risques. Hein. Et quotidiennement, dans le quartier latin, il y a des gens qui sont obligés de descendre du trottoir. Et quand c'est des mères avec des landaus, c'est dangereux. Donc c'est pour ça que les gens sont en colère. C'est juste pour ça. Hein. Donc j'attire simplement votre attention là-dessus pour comprendre en fait cette colère et en tenir compte. Et voilà, et je pense que vous avez vraiment... conscience du fait que vous représentez aussi les Parisiens et tous les Parisiens et l'immense majorité des Parisiens qui ne s'expriment pas aujourd'hui, malheureusement. Voilà, mais je vous remercie en tout cas pour la réunion d'aujourd'hui.
Je vous en prie, monsieur Jacques Hidot, de prendre vos remerciements. Je voulais juste vous dire, monsieur, que je comprends ma fonction pour essayer d'écouter tout le monde et d'essayer de faire au mieux pour essayer de comprendre quel est l'intérêt général. Et c'est ça que je veux essayer de trouver, c'est l'intérêt général. D'accord, c'est pas facile, hein, l'intérêt général. Il y a plein de petits compromis à trouver tout le temps. Bien. Donc, je ne dis pas qu'on fasse toujours bien. Et je ne revendique pas du tout d'avoir la vérité. Je dis que j'essaie.
Non, mais
je tente à tout moment dans ma fonction de représenter l'intérêt général.
Et
j'aimerais bien que tout le monde, les élus, parce que les autres ne sont pas censés représenter l'intérêt général, ni vous, ni vous.
Bien sûr, je n'ai pas posé cette question. Je dis ça avec nos adhérents, simplement.
Je ne demande pas du tout. Mais je dis simplement que tous les élus doivent essayer de le faire. Ils essayent comme ils peuvent. Chacun. En tout cas, à ma part, à ma place, je tente de le faire.
Et
c'est
je
pour ça que j'ai demandé à chacun de venir aujourd'hui le plus honnêtement possible et participer à une séance de concertation.
Et je vous confirme d'autant plus votre position que d'ailleurs, sur le sujet, on a discuté à 10h05, quand on s'est rencontrés, vous m'avez dit, moi j'avance, hein, indépendamment des questions d'être élu ou pas élu. Donc, effectivement, pour vous, ce n'est pas un souci. C'est bien ce que...
Non, franchement, je ne ferai pas grand-chose. Vous voyez, passer toute ma matinée ici, d'accord, juste pour être élu, franchement,
voilà.
Bien sûr, je pourrais faire...
En tout cas, merci pour cette réunion d'aujourd'hui. Alors, merci beaucoup. Je vous laisse donner... Hein, voilà.
Et ensuite, vous conclurez. Je conclurai, mais vous interviendrez tout à l'heure.
Simplement, j'aurais deux points à aborder. Le premier, ça touche aussi bien aux 60 cm dont on vient de parler qu'aux 5 mètres dont a parlé Philippe Jacquinot. Moi, j'entends bien que vous voulez vous laisser la possibilité d'adapter au cas par cas et de ne pas être bloqué parce que vous avez dit 60 cm et qu'à 58, on est tous d'accord que ça ne ferait pas de différence et que pourquoi pas donner 58. Le problème, c'est que, à mon avis, le règlement ne permet pas simplement de régler des cas particuliers, il doit aussi donner une philosophie générale. Moi, nous avons affaire pour le quartier, à quelqu'un que vous connaissez bien, qui est un établissement que vous connaissez bien, qui est la Pidia Ennio.
Bon, très bien.
Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir fait démonter sa terrasse. On ne va pas revenir là-dessus. La terrasse ouverte que ce Pidia a sur la place des Innocents, d'après ce que nous a dit M. Moulin, est complètement illégale. On n'arrive pas à s'en débarrasser très bien. L'objectif dans la vie de M. Ennio.
C'est pour ça qu'il nous faut un système de sanctions.
On est d'accord. Et je vous assure qu'on va écrire à nos députés, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que si vous voulez, moi j'ai parlé une fois avec le propriétaire, lui, sa vision de la ville, et
je pense que ce serait intéressant de mettre, et important de mettre dans votre règlement quelle est votre vision de la ville. Sa vision de la ville à lui, c'était de dire ce qui serait bien, c'est que toute la terre, il l'a dit, hein, toute la, la place des innocents soit couverte de terrasses, parce que ça chasserait la racaille, ça chasserait les SDF, etc., et ça serait tranquille, et ça serait bien, et touristiquement, ça serait très très bien, voilà. C'est son avis, il a parfaitement le droit de défendre cette vision-là. C'est la vision de la place du Tertre, qui est entièrement couverte par des commerces, des trucs, etc. Moi, c'est pas du tout ma vision, et je pense qu'il serait important, parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens de s'asseoir à une terrasse de café au prix où c'est, il faut le compter, et particulièrement dans le quartier des Halles, où si vous voulez, il y a beaucoup de gens qui sont très modestes, des gens qui viennent, des jeunes, et des trucs comme ça, ils ont de quoi aller, enfin bon, peu importe, mais voilà, donc il faut absolument, je pense, qu'on donne une image de ce qu'on juge acceptable possible et ce qu'on ne juge pas, voilà. Et le fait de dire, on enlève la limite de 5 mètres pour les contre-terrasses, dans l'esprit de tas de gens, dont nous, ça fait naître l'idée, donc, demain, la place de la Sorbonne pourrait éventuellement être... Non mais attendez, vous êtes là aujourd'hui, madame, demain, ça sera quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, il n'aura pas forcément... Non mais
vous êtes vous serez maire.
Vous êtes d'accord. Les règles qu'on fixe, vous avez dit, le précédent règlement, il a été fait il y a 20 ans. Vous n'espérez pas occuper ce poste-là, en tout cas pendant 20 ans. D'accord. Bon, ça veut dire que si vous voulez, si vous enlevez des choses comme ça, si vous enlevez la notion des 60 cm et la notion des 5 mètres, nous vous faisons le crédit que vous allez en user de façon très positive et que ça sera pour le bien commun, etc. Votre successeur, ce ne sera pas forcément le cas. Donc si vous voulez, il faut essayer quand même de prévenir les risques d'arbitraire qui tourneraient mal. Et je pense que c'est pour ça que c'est important que vous laissiez quand même quelques règles. Et ma foi, s'il faut faire une dérogation, il faut trouver je ne sais pas quoi, mais que l'indication qui va être donnée dans le texte, ça le dit très bien à mon propriétaire de la pizza machin, ton rêve d'occuper toute la place, c'est même pas la peine, ça va pas être possible.
Madame Bourguignon, je vous entends, parce que vous parlez raisonnablement, mais je vais vous dire, c'est beaucoup plus difficile de faire de l'arbitraire quand il y a un règlement. Vous voyez, je veux dire, pourquoi je dirais, c'est 60 cm, voilà, bon. Et puis là, il y a 58 cm, comment je fais? Tout le monde trouve que c'est pas inintéressant d'avoir une terrasse là. Je n'ai pas le droit. Et on sait qu'il y a des paris qui peuvent se faire condamner parce que monsieur va être dans le tribunal administratif et je n'ai pas l'intention de faire condamner la ville de Paris. C'est pas moi qui condamnerai, c'est la ville de Paris. Donc je fais très attention à ce que je fais. C'est pour ça que je me permets de. Vous voyez, c'est pas évident non plus. Moi personnellement, vous voyez, franchement, moi, on est 60 cm, vraiment personnellement, à moi, ça ne me dérange pas du tout. Mais je trouve que c'est dommage. D'encadrer la ville qui a besoin de bouger, qui a besoin d'évoluer, qui a besoin d'être une ville moderne, qui a besoin d'être une ville vivante, dont vous-même et vos enfants vous pourrez profiter, parce que, quelque part, aussi, on a peur de l'autre.
On est dans les
caniveaux,
alors.
Non, attendez, je finis ma phrase. Parce qu'on a peur de l'autre, parce que vous me dites, je comprends ce que vous me dites, hein, parce que je sais bien de qui vous parlez. Et parce que, alors, si on dit, on laisse les 60 minutes avec un point d'interrogation, alors du coup, les gens vont en profiter. Non, moi, je préfère dire. Non, mais attendez. Je préfère dire qu'il y a des possibilités d'évoluer et il y a des sanctions pour ceux qui se comportent de manière incivile. Parce que être incivil, c'est vraiment ne pas faire confiance à l'autre. Ça veut dire se moquer des autres. Moi, je n'ai pas l'intention de me moquer des gens. Je ne me moque pas de vous parce que, justement, je vous ai fait venir ici pour parler franchement. Donc, j'essaie de ne pas me moquer de vous. Bien. Donc, moi, je ne me moquerai pas de vous non plus en appliquant le règlement avec les services de la ville. Donc, je dis simplement que je préfère avoir un règlement un peu intelligent qui prévoit des évolutions et avoir des sanctions dures pour ceux qui se foutent du monde.
D'accord.
Parce que votre monsieur en bas de chez vous, si on lui mettait 500 euros par mètre carré utilisé indûment par jour, il y a longtemps qu'il serait parti. Hein? Et moi, c'est ce que je demande. Je demande des astreintes par jour pour ce que proposait le président du SMEC. C'est-à-dire quelque chose qui fout la peur aux gens qui dépassent et du coup, franchement, le nombre de gens qui viendront verbaliser, à la limite, ils n'oseront plus dépasser. Parce que la sanction, c'est comme à New York, quand vous mettez votre voiture en stationnement interdit, vous avez plus de 1 000 $, bah, vous ne la mettez pas, c'est tout, vous ne la mettez pas, c'est trop risqué.
Est-ce que... bah, nous, madame, on a besoin de garde-fous. On pense que quand on dit 60 cm, vraiment, c'est déjà au-delà.
Et la garde-fous, ça ne va pas être la sanction, votre ami.
Les deux, madame.
Moi, je vous fais une proposition. En reprenant un exemple dont on a parlé tout à l'heure, c'était de dire la règle du tiers s'applique en principe. Vous nous avez dit que cette formule, en principe, c'est destiné à vous permettre justement d'adapter et de pas qu'on ne vous mette pas au tribunal administratif pour 2 cm. Pourquoi vous ne pourriez pas au moins dire, vous voyez, alors, et là-dessus, et, vous voyez, de dire c'est en principe. Alors, par contre, sur les 60 cm, je vous rappelle qu'il y a eu le rapport de l'IGS, je ne sais plus en quelle année c'était en 2004 ou 5. Pardon, excusez-moi. L'inspection générale qui avait qualifié cette distance de cette largeur de 60 cm d'hypocrite. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que je me suis amusée à mesurer mon mari ce matin. J'ai dit, mais au fait, ça fait combien un corps humain assis sur une chaise ? C'est pas possible, ça tient dans 60 cm. Alors, il faudrait qu'il soit collé contre la terrasse, de façon. Vous voyez ? Mais en réalité, déjà, on demande beaucoup aux commerçants pour surveiller leurs trucs et tout ça. Les gens qui sont assis, c'est beaucoup plus agréable d'être perpendiculaire à la façade, donc en général ils bougent tout de suite, et ce qui se passe, c'est la photo qu'a montré Philippe tout à l'heure, c'est-à-dire que simplement vous déployez votre truc, ou bien vous avez un bagage, ou bien vous avez quoi que ce soit, sincèrement je pense que 80 cm, ça serait plus crédible que 60, est-ce que vous pourriez mettre dans le règlement, en principe, la largeur minimale est de 80 cm, si de terrasse bien sûr, ça serait moins hypocrite que 60 cm, et il y aurait quand même une indication pour dire que vous, dans cette municipalité, avec ce règlement, votre vision de du partage de l'espace, c'est de dire, normalement, ça veut dire 80 cm. Comme il y a 1,60 m, ça veut dire quoi dans la tête des gens? C'est-à-dire 1,60 m plus 80 cm, 2,40 m. Il n'est pas possible d'avoir des terrasses sur des trottoirs qui font moins de 2,40 m.
Il y en a combien, pareil?
Je ne vous parle pas. Non,
j'ai dit ça comme ça. C'est pour pouvoir passer.
Mais madame, dans le quartier Montorgueil, vous avez des terrasses sur des trottoirs qui font 1 mètre. Donc les gens, ils sont prêts à tout.
C'est pas moi qui ai décidé que les fumeurs sortaient. Quand les fumeurs ne sortaient pas,
ça réglerait, madame.
Mais si,
parce que maintenant, jusqu'à ce qu'on interdise de fumer dans la rue.
Vous n'êtes pas réceptionnaire, vous n'êtes pas destinataire de l'ensemble des demandes de terrasses, madame. Et quand je pense que les patrons d'établissement ont appliqué la loi, parce qu'on leur a demandé d'appliquer la loi, hein, on avait imaginé en France que c'est difficile d'appliquer la loi, finalement c'est appliqué, bien écoutez, les demandes de terrasses, elles ont explosé, parce que la loi nous a mis à notre charge, je veux dire, les fumeurs.
Je suis d'ailleurs, nous devons balayer les mégots, etc., chose que nous faisons pas jusqu'à présent.
C'est pas parce qu'il y a des gens qui fument qu'il y a moins de piétons, moins de personnes âgées, moins de gens handicapés, moins de femmes enceintes, moins de personnes avec poussette. Alors, soyez logique.
Est-ce qu'il y aura d'autres réunions comme celle-ci ? Est-ce qu'il y aura d'autres réunions comme celle-ci ? Madame Consuela, est-ce qu'il y aura d'autres réunions comme celle-ci ? Est-ce que c'est la dernière ? La première et la dernière ? Ou est-ce qu'il va y en avoir d'autres, en fait ? D'accord.
Simplement, ce que je voudrais vous dire, Madame Consuela, c'est que si vous ne mettez pas de limite, et que donc on peut se dire, dès qu'il y a plus d'un mètre soixante, j'exagère, hein, parce qu'ils ne vont pas demander des terrasses de 10 cm, mais que dès qu'il y a plus d'un mètre soixante, je peux peut-être candidater, peut-être avoir une terrasse, et vous allez en autoriser un certain nombre. Imaginez le nombre, vous ou vos successeurs, imaginez le nombre de trottoirs à Paris qui font plus d'un mètre soixante.
J'ai compris votre position.
D'accord, alors je termine avec le dernier point, qui me paraît quand même très très important, c'est que cette règle du tiers, elle me paraît remise en cause dans le projet de texte à propos des quartiers piétons. Et les quartiers piétons, il est dit qu'on peut réserver une bande de 4 mètres au centre du quartier piéton et que le reste, voilà. Ce qui fait que sur une rue de 12 mètres, par exemple, comme il en existe dans le quartier des Halles, actuellement, si on applique la règle des 2/3, il y aurait 1/3 pour les terrasses et 2/3 pour les piétons, donc ça fait 4 mètres pour les terrasses et 8 mètres pour les piétons. Si on applique cette règle de 4 mètres au centre, on inverse, c'est-à-dire il n'y aurait plus que 4 mètres pour les piétons et 8 mètres pour les terrasses. Je pense que ça résulte d'une vision de la ville que personnellement je ne partage pas, qui est de dire la majorité de l'espace d'une rue piétonne, pourvu qu'elle soit de 10 ou 12 mètres large, va être réservée au commerce. Je trouve ça.
J'ai entendu votre position parce que tout ce que nous disons, ce n'est pas des obligations, on l'a déjà dit. Hein.
Je sais bien.
Donc j'ai entendu que les rues
Je vous parle depuis tout à l'heure sur l'idée que si notre règlement n'est pas juste destiné à dire on peut faire ça, etc., et des cas concrets, il est aussi destiné à donner une vision. Quelle est votre vision de la ville? Et je pense que c'est important de dire, de formuler ça autrement, parce que sincèrement, dans le quartier des Halles, on souffre beaucoup de l'étalement des terrasses. Si vous, même dans l'esprit des gens qui débordent, ils se disent, bah, la ville, quelque part, elle nous donne raison, puisque vous voyez ce que je veux dire. Et le dernier point, je rejoindrai monsieur de monsieur de Châteauvieux tout à l'heure, c'est que dans le quartier Montorgueil, donc il y a eu cette idée qui s'est répandue que finalement, je crois qu'elle a été pratiquée plus ou moins de façon, bon, que dans les quartiers piétons, les zones piétonnes ou assimilées piétonnes, finalement le trottoir, on n'en tenait plus compte, qu'il n'était pas considéré comme un trottoir, parce que les gens pouvaient marcher partout, donc le trottoir, voilà. Il n'en reste pas moins que le trottoir, il a une réalité physique. Pour les personnes à mobilité réduite, pour les personnes âgées, etc., il y a une réalité physique, c'est qu'il y a une marche, et qu'il faut franchir la marche. La preuve, c'est que les règles imposent à tous les carrefours de faire des bateaux. Ça veut bien dire que ce trottoir, il a une réalité physique. Et donc, on ne peut pas, si vous voulez considérer tout l'espace, toute la largeur de la rue comme neutre, et comme, voilà, ça veut dire que... ça veut dire que quand il y a des trottoirs qui sont une réalité physique, il faut tenir compte de cette réalité physique. Alors, est-ce que ça veut dire que si vraiment la rue est très très large et qu'il y a de la place à choper, il faut faire des contre-terrasses, je ne sais pas quoi. Moi, ça me paraît très important, quand il y a des trottoirs, de maintenir un cheminement, comme disait M. Chalouzou tout à l'heure, pour les personnes à mobilité réduite, sur ce trottoir. Et je cite cet exemple d'une dame qui est en train de poursuivre son truc, qui est tombée parce qu'elle est montée rapidement sur un trottoir. Elle est tombée, elle s'est fracturée le coude parce qu'il n'y avait que 40 cm qui restaient encore au bord du trottoir. Ouais. Donc pensez à ça et dites que le trottoir existe. Il ne faut pas faire
plus. Une minute, je trouvais un peu quand même dommage. Je tiens aussi à vous remercier parce que je trouve que vous faites preuve de beaucoup de patience. Je trouve dommage qu'on demande du dialogue, du consensus, etc., que là, ne serait-ce que dans le temps de parole, on a la chance d'avoir des professionnels très responsables qui ont quand même dit à quel point ils souscrivaient au fait de vouloir aller complètement, finalement, dans le sens des riverains, et puis de, finalement, s'enfermer dans des cas d'espèce, dans des monologues, des choses qui sont anecdotiques, au lieu d'aller à l'essentiel. C'est très dommage, quand même, c'est triste ce qui se passe. Notamment le fait qu'on plaque, finalement... Les élus que vous êtes dans une espèce de paranoïa en vous soupçonnant forcément d'un laxisme incroyable, alors qu'on sait qu'aujourd'hui l'ensemble des élus de droite et de gauche à Paris sont très préoccupés, comme vous même pouvez être là, du fait de vouloir trouver des points d'équilibre. Et là, on est en train de gâcher l'opportunité de vraiment aller au cœur des choses, parce qu'on reste dans des paranoïas qui ne sont rien d'autre que le même constat que nous faisons tous. L'incivilité parfois de nos clientèles, l'incivilité de certains exploitants. Qui, parce que, comme vous le dites très justement, Mme Cohen-Solane, il y a une carence énorme en termes de sanctions et de réglementation. Donc, finalement, au lieu de cibler, de débattre autour de tous les moyens qu'on pourrait se donner pour travailler ensemble et veiller à corriger ce que vous souhaitez, et moi je souscris complètement à l'esprit de ce que vous dites, finalement, on s'empêtre dans des petits points et des choses que l'on condamne les uns et les autres. Par exemple, une chose que vous, riverains, vous ne prenez pas en considération, c'est que, notamment, parce que ça, c'est un point de débat, la majorité des établissements qui sont dans les règles sont syndiqués. Le gros problème que nous, on constate, professionnels, accompagnateurs professionnels, c'est que souvent, les mauvais élèves ne sont pas syndiqués. Donc, quelque part, ils échappent à tout. Et parce qu'ils sont dans le mal-être et le malaise de la mauvaise conscience et de s'affranchir de la loi, ne souhaitent être sous aucun parapluie. Parce que nous, nos organisations professionnelles, et c'est aussi notre travail, contrairement à ce que vous semblez distiller en permanence, c'est aussi d'éduquer nos adhérents vers la loi, leur expliquer comment s'inscrire dans la loi, quel est l'intérêt de la loi, quel est l'esprit de la loi. Donc finalement, là, on passe complètement à côté de l'opportunité où chacun cherche à trouver un coupable, alors que finalement, au bout du compte, on a un peu de cela. Je crois que tout le monde, ici, les professionnels, sont un peu
agacés. C'est pour ça qu'il faut continuer à se voir.
Vous avez utilisé la parole pour. Finalement, on vous a dit, monsieur, qui est très représentatif du monde de la brasserie, de la restauration, vous avez dit à quel point il souhaitait être dans une posture légaliste et à quel point il mettrait tout en œuvre pour responsabiliser les exploitants, pour les informer, pour leur donner envie d'être dans la loi. C'est ce travail de syndicat que nous faisons tous. Mais en réalité, le problème, par exemple, c'est que beaucoup d'établissements condamnés ne sont pas syndiqués. Vous voyez, ça, c'est un point de débat. C'est intéressant. La médiation dont parle très justement les représentants des professionnels, c'est pareil, ça aurait mérité qu'on creuse un peu le débat, etc. Le fait que dans le cadre de cette nouvelle mouture de la loi, on puisse l'accompagner d'outils de prévention, parce qu'on est tous demandeurs d'outils de prévention, et c'est en mairie de Paris, et la mairie, Dieu sait, avec le bureau des plans, si elle sait faire dans ces domaines. Moi, je trouve ça un peu dommage,
mais faut se rendre
dans des points de détail, où finalement, effectivement,
on peut demander une réécriture.
Il faut se revoir pour en parler.
Pour éviter les sous juridiques, mais c'est dommage que ces bases.
Mais il faut se revoir pour en parler.
Vous êtes trop dans la défiance.
Excusez-moi.
Il faut se revoir.
On est
ici pour discuter du règlement.
Oui, d'accord, monsieur.
Des considérations plus générales.
Vous permettez, monsieur.
Je vous en prie.
Donc, on est en réunion depuis 2h30. Hein. J'estime qu'on est nombreux, d'accord. Ceux qui ont voulu s'exprimer, je crois, se sont exprimés. Ceux qui n'ont pas parlé, ceux qui ne voulaient pas s'exprimer, parce qu'ils ne voulaient pas répéter ce qui avait été dit avant, je suppose. La voiture de police, comme les services de la ville, ont entendu très précisément tout ce qui a été dit, tout a été noté. Personnellement, j'ai naturellement tout entendu, parce que je suis extrêmement attentive à ce que vous dites. Donc, je vous remercie, chacune et chacun, d'avoir participé à cette réunion, tous autant que vous êtes, c'est-à-dire pour ce que vous avez dit et ce que vous n'avez pas dit. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de votre implication dans la vie de la ville. C'est très important pour nous. Sans vous, n'est-ce pas, nous, élus, nous avons plus de mal à trouver des compenses. Je vous remercie donc de cette implication dans la vie de la ville. Je vous dis simplement que nous prendrons en compte tout ce qui a été dit ici. Au mieux, tout ce que nous avons à faire. Je ne sais pas si cette réunion sera la dernière ou pas. Nous aviserons avec le maire de Paris s'il doit en faire une autre ou pas. Je vous demande simplement de rester vigilant parce que là, de m'envoyer par les moyens que vous trouverez nécessaires vos observations après cette réunion. Je pense que la ville examinera. Je vous demande simplement de prendre en compte le fait que nous devons arriver à un consensus. Voilà. Il n'y a pas de vie possible, en ville ou ailleurs, ou en famille, où vous voudrez prendre sans arriver à un consensus. C'est-à-dire à une vision à peu près commune de notre vie ensemble. Donc je vous remercie infiniment de pouvoir la partager avec vous. Je vous souhaite une bonne soirée.